Si vous voulez bien, nous allons commencer par inviter quelqu'un dont moi j'ai le plus grand besoin, un certain appelé Saint-Esprit. Voilà, vous allez l'implorer sur toute l'Assemblée et sur moi-même.
Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs. Tout au fond de nos vies, révèle ta puissance. Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs. Chaque jour, fais de nous des témoins du Seigneur. Tu es la lumière qui vient nous éclairer, le libérateur qui vient nous délivrer, le consolateur, esprit de vérité. En toi l'espérance et la fidélité.
Merci. Je salue d'abord chacun de vos anges gardiens, qu'on n'aime pas assez d'ailleurs. Je salue tous les membres de vos familles, de vos amis, qui n'ont pas pu venir, mais que vous représentez, et y compris la partie de votre famille qui est au ciel, car je l'invite à être présente aussi. Je salue très spécialement les jeunes qui sont là, c'est presque héroïque parce que vous êtes en pleine période d'examen. Alors on va demander au Saint-Esprit de se rattraper en lumière pour vous durant l'examen. Quelques mots sur ici et aujourd'hui. Ici à Grenoble, j'ai voulu particulièrement venir pour saluer, entre autres, tout ce qui se fait de formidable dans ce diocèse au niveau des jeunes, la pastorale des jeunes, dont j'ai beaucoup d'écho, de la mission Bonne Nouvelle, l'été, etc. Tout le travail ardent des AFC, tous vos courageuses manifs pour tous, toutes ces montées à Paris, sur la Grande Armée, etc. Il y a des échos dans toute la France de ce qui se vit à Grenoble. Voilà, donc je tenais à voir un peu plus sur place, les veilleurs, etc., pour les saluer, les encourager. Et ici à Grenoble, où j'ai vécu un événement très important de ma vie, dont je dirai quelques mots tout à l'heure. Et puis, ici, chez Saint-Joseph, qui est par excellence le protecteur, le défenseur, le sauveur de la vie, puisqu'il a tout simplement sauvé celui qui était la vie en personne dans son pèlerinage terrestre. Et puis aujourd'hui, c'est-à-dire la date, l'époque, très important, où toute l'Europe est spécialement concernée avec la fête du 9 mai, l'approche des élections européennes. Et puis nous fêtons les 100 ans du début d'une guerre tribale inter-européenne qui a fait tant de victimes. Et aujourd'hui, nous sommes vraiment entrés dans une nouvelle guerre, non pas de deux tribus ou de deux pays, mais véritablement de l'humanité contre l'humanité. C'est ce que nous a rappelé avec beaucoup de force notre pape François à plusieurs reprises quand il nous a dit récemment, ou plutôt à la Pentecôte dernière, aujourd'hui ce n'est pas une crise économique, culturelle, c'est une crise de l'homme. Ce qui est en crise, c'est l'homme. Ce qui peut être détruit, c'est l'homme. Et ne soyons pas naïfs, ce n'est pas une lutte politique, c'est la prétention de détruire le plan de Dieu. Ce n'est pas un projet de loi, c'est une motion du père du mensonge qui cherche à tromper les enfants de Dieu. Et donc, en célébrant ces 100 ans d'une guerre, nous sommes devant une guerre bien pire en ce moment, contre la vie, contre l'amour, contre le mariage, contre la sexualité, c'est-à-dire contre l'humanité. C'est pour ça que je pense que c'est un des signes de l'entrée dans le grand combat des derniers temps. Parce que Satan ne nous attaque plus sur des choses périphériques, mais vraiment va au cœur du mystère de la création, comme nous allons le voir. Et puis, nous sommes juste après la canonisation de notre cher Saint Jean-Paul II, à qui je confie ma voix ce soir, parce que depuis plusieurs jours, j'étais complètement à faune. Et donc, tout Jeunesse Lumière m'a confié à Jean-Paul II, pour que je ne sois pas définitivement à faune comme lui les dernières semaines. Vous m'excuserez si de temps en temps je dois me désaltérer. Voilà. Le pape par excellence de la famille, vous savez, quand en 94, il y a eu cette terrible chute du col du fémur qui a marqué tout son pontificat coupé en deux. À partir de ce moment, tout son corps s'est déglingué peu à peu, il ne s'en est jamais remis. Eh bien, il a dit qu'il fallait que ça arrive l'année de la famille, parce que la famille est en souffrance, le pape doit souffrir avec la famille. Et les paroles ne suffisent plus. Il faut la souffrance pour sauver la famille. Et on peut dire que toutes ces atroces souffrances des derniers mois et des dernières semaines étaient tout entières offertes pour la famille. Les souffrances de ces 94, de ces 11 dernières années de sa vie, c'était vraiment pour la famille. Voilà. Si un jour l'histoire doit se souvenir de moi, je ne pense pas qu'elle s'en souviendra. Mais si elle s'en souvient, je veux que ce soit comme pape de la famille. Donc nous lui confions toute cette soirée. Enfin, nous sommes dans ce diocèse que j'aime tant à cause de la Salette. Et nous commençons ce soir la grande fête instituée par Jean-Paul II de Notre-Dame de Fatima. Voilà. Alors vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'un prêtre va nous parler de toutes ces histoires-là? Eh bien d'abord, parce qu'un prêtre est un ambassadeur de Jésus. En cette semaine du bon pasteur, il nous a rappelé qu'on doit être vraiment ces bons bergers qui crient quand le loup arrive. Il y a des paroles très fortes du pape François, tous ces derniers temps. L'évêque et le prêtre doivent être vigilants, veiller sur leur peuple, faire la sentinelle pour l'avertir quand les loups arrivent. Ça reprenait le premier mot de Benoît XVI en inaugurant son pontificat. « Priez pour moi afin que je ne me dérobe pas par peur devant les loups. » Et je pense que c'est le devoir de tout berger, quelle que soit sa manière d'être berger, ici je parle spécialement des prêtres, d'être vraiment ceux et qui veillent sur leur troupeau et qui n'ont pas le droit de se taire. Si un pasteur reste muet en voyant Dieu outragé et les âmes s'égarer, malheur à lui, le curé d'Ars. Ou bien, face au mal, neutralité équivaut à complicité. Si la hiérarchie s'était tue sous la dictature des Philippines, c'est le cardinal Sin, elle aurait mérité le reproche de lâcheté et de complicité avec le mal. Et cardinal Bannon de Lyon, il ne faut pas que dans 20 ans des évêques de France soient tenus de demander pardon pour des silences d'aujourd'hui. Si nous, les prêtres, nous nous taisons, les gens perdront entièrement la boussole et ne sauront plus où ils en sont. Ça, c'est un martyr du nazisme allemand, Père Lichtenberg. Et tant est autre de ses appels, justement, à ne pas se taire quand les loups sont là. Le devoir d'avertir le peuple. Voilà. Et je fais ça après 33 ans de ministère auprès des jeunes, depuis mon ordination sacerdotale, après 33 ans de vie contemplative, et qui fait que je ne veux pas avoir du sang sur les mains quand je vais me trouver face à face avec le Seigneur. Tu savais toutes ces choses, pourquoi tu ne l'as pas dit? Pourquoi tu l'as gardé pour toi? Voilà. Le prêtre est un veilleur, est une sentinelle, et qui avertit le peuple et qui se bat avec son peuple. Voilà. Et le prêtre aussi, il est au service tout spécialement de ce mystère de la vie, de la sexualité. Il reçoit ce cadeau formidable de Dieu de ne pas avoir sa propre famille selon la chair, de partager le célibat d'amour de Jésus lui-même en personne, qui nous le confie, pour pouvoir être totalement au service des familles et des jeunes dans leur croissance spirituelle, physique, comme tant de martyrs. Un prêtre doit être prêt à donner son sang pour sauver les familles, comme le Père Kolb, comme les 11 petites martyrs polonaises, ces petites religieuses qui ont pris la place de 11 mamans en disant « Nous n'avons pas d'enfants, donc prenez-nous ». et elles ont sauvé 11 petites mamans. Tant et tant de prêtres ont été tués en s'interposant pour sauver la virginité d'une jeune fille. Des quantités. J'ai un propre oncle au Cameroun, un spiritain qui a été tué de 3 coups de lance dans le cœur parce qu'il protégeait une jeune fille de sa paroisse contre l'homme à qui elle revenait de droit, dans le droit coutumier, mais qu'elle ne voulait pas épouser. Et il a dit, cette fille est chrétienne, elle est libre, tu n'y toucheras pas. Alors il vient pour la tuer, mais le prêtre s'interpose. Alors c'est formidable, parce que le meurtrier, tout de suite après l'avoir, il tombe à genoux, demande pardon, le prêtre lui donne l'absolution, et le prêtre part au ciel, et la fille est sauvée. Formidable. D'une pierre 3 coups, vous voyez. Voilà, j'aime beaucoup ce don. Voilà, tout ça c'était une rapide petite introduction. Alors, nous allons répartir comme ceci. Parce qu'on ne peut pas tout aborder ce soir. Le problème c'est que tout se tient. C'est comme un puzzle où tout rentre les uns dans les autres. Mais il va falloir faire une sélection assez sévère. Nous allons tout de suite, dès le départ, monter aux origines. À la source, au sommet, Jésus lui-même, en nous parlant du mystère du mariage, tout de suite il nous réfère au commencement. Mais il n'en était pas ainsi au commencement. Sous-entendu, je suis venu pour vous faire revenir au commencement. Quelle est l'origine du mystère de la vie, de l'amour, et donc de la famille. Nous allons commencer par là. Ensuite, nous allons faire une espèce de descente aux enfers, voir toutes les attaques, non pas contre la vie, on n'aura pas le temps ce soir, et puis j'ai fait tout un livre récent là-dessus qui s'appelle SOS, la vie, on la tue, mais la vie l'emportera, donc je ne vais pas en parler ce soir, ça nous entraîne trop loin, mais je parlerai de toutes les attaques contre la sexualité et nous terminerons par la beauté de la famille aujourd'hui. Donc, on va faire partir du plus beau et remonter vers le plus beau en faisant cette grande descente. Oh, c'est super cool, ça. Merci mon frère. Voilà. Alors, pour remonter aux origines, parce que on ne peut pas comprendre toutes les horreurs qui se passent aujourd'hui si ce n'est pas dans la splendeur de la lumière originelle. On ne peut pas remarquer des ombres s'il n'y a pas le soleil. Voilà. Et donc, nous voulons d'abord flasher le soleil de Dieu sur ce mystère formidable de la sexualité. Un petit peu comme à Fatima, où à un moment, Marie étend ses mains et on voit ces rayons de gloire qui viennent transfigurer quasiment physiquement les 3 petits bergers qui se voient tout en feu. Ils se voient brûlants comme des buissons ardents, porteurs de Dieu. Et ils ont dit, nous nous sommes vus comme Dieu nous voit. Voilà. Et bien, nous allons commencer par là. Comment est-ce que Dieu voit la vie, l'amour, la famille? Alors, vous savez que tout le cosmos, depuis le Big Bang, il y a quelques 14 milliards, 300 millions d'années, se préparait lentement à ce Noël, à cette Pentecôte extraordinaire où tout à coup, par une intervention directe de Dieu, il y a l'apparition de la première personne humaine. On ne sait pas exactement où ni quand, mais on en voit très vite les fruits, etc. Les fruits d'une intelligence déjà capable en ce développement pendant des millénaires de fabriquer nos GPS et nos portables, etc., etc. Mais qui est déjà là à l'origine. Ce moment bouleversant pour Dieu. Voir tout à coup cette intelligence capable de créativité, un autre monde que celui des animaux, etc., etc. Voilà. C'est ce moment où Dieu insuffle son propre esprit en celui qu'on va appeler Adam, c'est cette Pentecôte, cette Ruah, qui se reproduit des milliers de fois à chaque seconde. C'est l'actualité continuelle, puisque chaque conception d'un nouvel être humain, c'est Dieu qui revit la création de la première personne humaine. Et chaque conception est une Pentecôte, pour les baptiser bien avant la Pentecôte de leur baptême, bien sûr. Et c'est le Père qui insuffle sa Ruah, son Esprit Saint, à travers le cœur de son Fils, en regardant le visage de son Fils, pour que ce nouvel être humain, un jour, puisse ressembler dans la gloire à son Fils. Voilà. Donc, à chaque conception, il y a 5 personnes qui agissent. Il y a papa, maman, quel qu'il soit. Et il y a le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Et ça ne marche pas s'il en manque un des deux. Voilà, tout simplement. Voilà. Et donc, ça veut dire que Dieu m'a voulu, m'a aimé, même si mes parents ne m'auraient jamais aimé, ne m'auraient pas attendu, ne m'auraient pas voulu, auraient essayé de m'éliminer. Dieu, lui, a voulu que j'existe. Voilà. Et c'est la guérison de tous ceux, de toutes celles qui ont pu être traumatisés en apprenant qu'on n'a pas voulu d'eux, bon, finalement, on les a acceptés, etc., etc. Ou bien quand ils entendent, moi, qu'on dit ton papa, je ne suis pas ton vrai papa, etc., etc. La guérison, c'est de comprendre que même si les circonstances ont été douloureuses, dramatiques, terriblement tristes, qui ont fait pleurer la mère de Dieu comme à la Salette, même alors, cet enfant est un enfant voulu, aimé de toute éternité par le cœur du Père. Voilà. Je me souviens, j'ai entendu un jour sur un grand écran, devant une petite maman, on a mis son échographie du 18e jour de son enfant, qu'elle ne sentait pas encore. On a augmenté de 30 fois le volume et on entendait au 21e jour ce tout petit cœur, ses premières pulsations. Bouleversant, 21e jour, tac, 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 encore un muscle, encore tout ouvert, pas encore fermé, la première partie du corps que tu vois, la première échographie, et ce tout petit cœur qui va battre, qui va battre, qui va pouvoir aimer Dieu toute l'éternité, il ne peut battre que parce que le cœur du Père, au même moment, au même rite, bat d'amour pour lui, un amour qui donne la vie, parce qu'en Dieu, l'amour donne toujours la vie, son amour est toujours fécond. Voilà. Et c'est tout qui reprend. Pardon, voilà. Et c'est à chaque instant, parce que je vis dans une Pentecôte permanente, à chaque instant, que Dieu est en train de me donner la vie. Il est en train de penser à moi. Il est en train de me vouloir exister ici, maintenant, ce soir, dans cette basilique Saint-Joseph à Grenoble, en ce 12 mai de l'an 2014. C'est une Pentecôte comme une jeunesse continuelle, permanente, vous voyez. Et il m'a voulu absolument unique, comme symbolisé par ce seul petit spermatozoïde sur des millions et des millions, voilà, ce seul petit embryon de l'ovocyte sur 10 000, etc., etc. L'unicité, c'est extraordinaire, vous voyez. Et donc, cette création d'Adam, nous sommes partis de l'origine, c'est l'actualité continuelle, continuelle. Et pas deux qui ont le même visage que toi, parce qu'il n'y en a pas deux qui ont la même âme. Ça, c'est l'origine du mystère de la vie. Et Jean-Paul II a tellement chanté ça, c'est le chant par excellence de la vie, relisé Evangelium Vitae, qui est une actualité extraordinaire, bien plus qu'il y a 15 ans. Je viens d'arriver pour la troisième fois. C'est une hymne émerveillée à la splendeur de la vie. Et il part toujours du mystère de la vie. Conception, la rencontre de Jean-Baptiste et de Jésus, les deux petits embryons qui se rencontrent dans le sein de leur maman. Dieu crée l'âme spirituelle du nouvel être humain en lui communiquant le souffle vital par l'intermédiaire de son Esprit Saint qui est le donateur de la vie. Voilà. Il donne son souffle et chaque enfant doit être accueilli comme un don de l'Esprit Saint. Il est un être reçu, une réalité pensée, aimée, donnée. L'Esprit Saint est présent à l'origine de chaque être humain, etc., etc., etc. Mais nous devons passer là-dessus, puisque j'ai dit que je n'aborderai pas le mystère de la vie, on ne peut pas trop continuer. Mais comment la vie est-elle donnée? Et là, c'est comme le second stade, tout de suite après la création du premier homme, on croyait que toute la création était arrivée à son sommet. Après tous ces stades successifs du monde sidéral, du monde minéral, végétal, animal, humain, on pensait qu'on ne peut pas aller plus haut. Eh bien, si l'insurpassable sommet va être la création de la femme. Et entre l'homme et Dieu, il n'y a que la femme. Elle est au-dessus de tout. C'est déjà le pape Pie XII qui disait « Elle est le chef-d'œuvre et le sommet de toute la création, et la couronne de la création. » Elle est créée en dernier, justement, après toute cette montée de plus en plus parfaite, de plus en plus perfectionnée, insurpassable. Voilà. Et quand on regarde de près, à la loupe, j'oserais dire, tous les termes, surtout en hébreu, de ces poèmes théologiques de la Genèse, c'est bouleversant comme ça nous éclaire aujourd'hui sur tout le rapport homme-femme. Voyez. Et Dieu merci qu'il y a toute cette idéologie complètement aberrante du gender, parce que ça permet à beaucoup de personnes, de psychologues, de médecins, de théologiens, d'exégètes, de creuser justement cette formidable complémentarité dans la différence homme-femme. Et donc depuis quelques années, grâce au gender, comme en réaction, on a voulu... Et voici quelques-uns, quelques petites pépites, parce que tout ça sera dans mon prochain livre, ce sera développé. Mais ce que Ève n'a pas été voulu, conçu, pensé par Adam, c'est pas lui qui l'a imaginé, il la reçoit comme un don de Dieu, c'est lui qui a l'initiative, c'est Dieu qui déduit par expérience personnelle, puisqu'il est tellement bon d'être en famille et d'être ensemble, puisqu'il est tellement bon de s'aimer entre nous, eh bien, ça doit être terrible que l'homme soit seul. Et pour qu'il vive comme nous, pour qu'il partage la vie la plus intime, il lui faut une personne humaine comme lui et différente de lui. Voilà. Et donc c'est Dieu qui en a l'initiative. Et pour montrer que l'homme n'y est pour rien du tout, il est anesthésié. Et il la découvre, il la nomme, il la reçoit de Dieu. Voilà. Alors que lui est créé à partir de la glaise, elle est créée à partir d'une chair déjà insufflée par l'esprit. Dès le départ, sa chair est déjà pentecostisée, si je peux dire comme ça, je ne sais pas comment dire, voilà. Donc de manière un peu plus délicate que l'homme. Et déjà dans les mots ish, isha, voilà, une même racine, et puis une petite différence, il y a le mot shin, shechina. Ça veut dire que le feu de Dieu, la présence de Dieu, est déjà entre l'homme et la femme ensemble. Ish, isha, avec ce shin, la shechina. Ou bien vous allez avoir dans le nom même de Dieu, qu'on ne peut pas prononcer, donc je ne prononce pas, vous allez avoir les deux syllabes de l'homme et de la femme qui sont insérées, parce que j'ai mon petit plan là, oh là là, qui sont insérées dans le nom même de Dieu. Quand j'avais un petit plan, vous compreniez bien ça. Et Satan va être tellement furieux que l'homme et la femme soient inscrits dans le nom même de Dieu, que pour parler de Dieu, il va éliminer ce nom qui contient l'homme et la femme, et va parler de Elohim, Elohim au pluriel, etc. Oui, tout ça, quand on étudie de tout près, c'est extraordinaire. Extraordinaire. Mais j'avais un petit dessin, j'ai oublié de l'apporter, ça ne fait rien. Comme ça, vous auriez pu visualiser. Voilà. Et Dieu inscrit la femme, je dirais, inscrit son nom de miséricorde dans le corps même de la femme, puisque la miséricorde, c'est les entrailles maternelles, les entrailles féminines, rachamim, vous voyez. Il y a encore une petite chose qu'on peut montrer aussi à partir de la Genèse, mais je n'ai pas... c'est que le mot hébreu pour femme ou femelle indique l'intériorité, indique l'accueil et la douceur. Et le mot hébreu pour homme, dès l'origine, indique l'action, la force. voyez. Donc déjà, dès l'origine, dans ces toutes petites choses de la Genèse, voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette différence entre l'homme et la femme, c'est la révélation par excellence de Dieu en tant que Dieu, de Dieu en tant que Trinité. Si tu ne sais plus ce qu'est un homme et plus ce qu'est une femme, tu ne peux plus savoir qui es-tu. Tu ne peux plus savoir qu'il est famille, amour, donnant la vie, circulant entre personnes différentes. Et donc, là où la relation homme-femme est dénaturée, c'est Dieu qui est défiguré. Dieu est un papa au cœur de maman. Il est homme et femme en même temps. Toutes les charismes, tous les dons de chacun, évidemment. Voilà. Et donc, c'est un amour fécond qui donne la vie grâce à l'altérité. Comme en Dieu, on ne peut pas mélanger le Père, le Fils et l'Esprit. Ce ne sont pas des clones. Ils ne sont pas interchangeables comme l'homme et la femme. Voyez, impossible. Voilà. Et donc, c'est là où on voit que l'altérité devient la condition de la fécondité, comme à peu près dans toute la création, d'ailleurs, chez les animaux et les arbres, etc., etc. Voilà. Dès l'origine. Et donc, c'est la révélation de l'humanité à elle-même. C'est deux manières différentes d'être humain. La femme rend l'homme humain. Et la femme, et l'homme réveille la féminité de la femme dans cette altérité extraordinaire. Tout ça, c'est le plan de Dieu à l'origine. On va voir après comment ça va être et comment le restaurer. Voilà. Et donc, c'est la révélation immédiate de ce qu'est l'amour, c'est-à-dire une sortie de soi pour découvrir l'autre dans sa beauté différente, dans ses charismes, dans ses dons différents. C'est une attaque contre notre égoïsme, notre repliement sur moi-même. Entre l'homme et la femme, c'est comme deux continents différents. Il y a bien plus de différence entre l'homme et la femme qu'entre un Suédois et un Zoulou, une Suédoise et un Zoulou. Bien plus, parce que c'est une différence constitutionnelle et pas culturelle. Eh bien, ça suppose l'ouverture à autre que moi. Et quand je m'ouvre à quelqu'un autre que moi, différent de moi, ça me fait pressentir qu'il y a une réalité, qu'il y a Dieu qui est le tout autre. Quand je comprends en tant qu'homme, que la femme est autre que moi, tellement différente de moi, alors je sais qu'il y a encore Dieu, encore autre. Vous voyez, elle m'ouvre à Dieu, elle m'ouvre à la transcendance. On n'a pas le temps de développer tout ça. Et en même temps, dans une égalité totale. Voilà, ils sont partenaires, ils sont en vis-à-vis. La femme n'est pas mise au-dessus ou en-dessus ou à côté ou derrière ou devant. Ils sont en vis-à-vis, visage à visage. Alors c'est l'exclamation d'émerveillement d'Adam qui la reçoit comme le plus formidable des cadeaux, comme son autre moi, différent et en même temps de la même substance, de la même chair. Voyez. Et il y a un midrash juif, cet humour juif très connu, qui dit, mais Adam s'est tout de suite exclamé, Seigneur, il me reste encore beaucoup de côtes, il m'en reste encore d'autres. Allez, fabrique-en-moi d'autres. Mais ça, c'est la psychologie masculine après le péché, pas avant. Et donc, c'est cette complémentarité, comme entre les deux mains, qui ne peuvent pas vraiment travailler ou jouer, si elles étaient identiques, les deux yeux, on a besoin de cette différence de vision pour qu'elle soit bipolaire, comme deux notes qui doivent s'accorder, chacun soumis l'un à l'autre, confié l'un à l'autre, faisant exister l'autre en tant qu'autre. Voilà, l'homme devant davantage protéger, apaiser, sécuriser la femme, la femme devant protéger le meilleur en l'homme. Pourquoi cette image de la côte, qui se traduit aussi par la chambre à côté, le côté ouvert. Parce que la cage thoracique est ce qui protège les poumons et le cœur, c'est-à-dire deux organes absolument vitaux pour exister. Voilà. Et la femme est ce qui protège ce qu'il y a de plus vital en l'homme et lui fait découvrir sa masculinité. Voilà. Merci. Voilà. Il y avait Joëlle Kaufmann, l'épouse d'un otage pris au Liban, et qui lui écrit « Fallait-il que je traverse tant d'horreurs que je me rende compte que tu es constitutive de mon existence et que je suis né le jour où je t'ai rencontré. » Vous voyez, c'est admirable. Voilà. Alors tous les psys, surtout ces dernières années, ont admirablement montré ces différences complémentaires. Alors, je ne vais pas m'y étendre, vous avez tous lu Mars, Vénus et tous ces trucs-là, etc. etc. Ce n'est pas le moment de nous étendre là-dessus. Mais toutes ces différences sont inscrites, toutes ces différences psychologiques, tellement grandes, des ressources de tant de tensions, d'incompréhension, que de scènes de ménage dans certains couples, simplement parce que l'homme projette sur sa femme sa propre psychologie, son propre approche des choses. Il ne peut pas imaginer, il ne pourra jamais comprendre qu'elle est dans une toute autre approche des choses. Tout est différent. On n'a pas le temps d'étendre là-dessus. Alors, ça s'inscrit dans le corps. Et ça, c'est essentiel. Le corps est ce qu'il y a d'absolument sacré pour un croyant. Parce que c'est Dieu qui nous a donné notre corps. Et notre corps est tellement formidable, tellement essentiel à la vie de notre âme, que nous ne serons pas en bonheur, en plénitude, sans notre corps à la résurrection de la chair. C'est une affirmation du credo que nous chantons chaque dimanche, mais qui est extraordinaire. Ou bien on enferme tout le monde en HP, c'est-à-dire un truc aussi incroyable que ça, je crois, la résurrection de la chair. Eh bien oui! Et j'en ai la preuve physique, puisqu'à toutes les apparitions de Marie, c'est Fatima ce soir, Marie se révèle dans ses 16-18 ans éternels, avec un corps de chair glorifié comme celui de son fils. Pour son fils, c'est normal, il est Dieu, donc ça ne me concerne pas, si je puis dire. Mais que Marie, chère de ma chair, une fille de ma race, de mon espèce, ait déjà son corps aussi beau que celui de Jésus au matin de Pâques, ça veut dire, voilà ce qui t'attend, voilà ton avenir. Et une apparition, c'est ce qui ouvre notre pensée tellement capsulée sur l'instant présent, tellement capsulé sur le trottoir, nous ouvre à notre avenir. Voilà ce qui t'attend, voyez. Parce que cette vie que Dieu m'a donnée, elle est d'emblée mise sur orbite de vie immortelle. Tu es saint, Dieu, je ne suis pas encore saint. Tu es fort, Dieu, je suis très faible. Tu es immortel et je suis immortel. J'ai un commencement, ce qu'en a pas Dieu, et je n'ai pas de fin comme Dieu. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et c'est ce qui fait que le corps est proprement divin. Il vient de Dieu et il est fait pour Dieu, pour une éternité. Et c'est mon souvenir de Grenoble. Grenoble m'a marqué pour toute la vie quand j'avais 12 ans. 12 ans. C'était en 44, en pleine guerre. Nous étions réfugiés dans une petite maison près de Villard-de-Lans. Et puis, il y avait des tas d'attaques de gangsters qui venaient voler les maisons en campagne. Et un jour, maman a été agressée par deux gangsters qui ont failli la tuer, 5 balles dans le corps, entre vie et mort, à l'hôpital pendant des semaines. Évidemment, j'étais bouleversée. Et je me souviens, dans ce monde de mort, où il y avait chaque jour des gens tués, chaque jour des gens raflés, emportés dans les camps de concentration nazis, j'étais plongé dans un monde de mort. Vous voyez les bombardiers américains, la nuit, tout ça. Et je suis allé à petite église pour le dimanche. J'étais en carême. Et l'évangile, c'était l'évangile de Lazare. Je suis la résurrection et la vie. Et je me souviens, sur le chemin, en revenant, petit bonhomme de 12 ans, je me tâtais. Jésus a dit qu'il est la résurrection, que je ressusciterai au dernier jour. Alors de deux choses l'une, ou bien Dieu est un menteur, ou bien tout ce que je vois de toutes ces morts, on a failli tuer maman, eh bien ce n'est pas la dernière réalité. Et là, j'ai cru de toutes les forces de mon âme dans la résurrection de nos corps. J'ai eu la certitude à 12 ans, ici à Grenoble, que j'aurai un corps aussi beau que Jésus au matin de Pâques. Voilà, et je vous transmets cette expérience de mes 12 ans, de nouveau ici à Grenoble. Voilà, voilà pour le corps. Et toutes ces différences sexuelles donc, vont se manifester physiquement, se tester physiologiquement, s'exprimer anatomiquement, comment est-ce qu'on dit anatomiquement, voilà, et se montrer morphologiquement. Ça, c'est très important, parce qu'on le voit pour le gender qui débranche complètement l'anatomie de la psychologie, qu'ici, c'est une intégration mutuelle absolue. Et il y a le verdict de la génétique dès la fécondation. Dès le premier instant, la fécondation, dès le zygote, l'homme est un homme pour toujours, la femme est une femme pour toujours. On le sait dès ce moment-là. Et c'est des menteurs qui vont vous dire, mais en échographie, ce n'est qu'après tel nombre de semaines qu'on va découvrir si c'est un garçon ou une fille. C'est complètement stupide. Ils n'ont jamais lu les grands généticiens de notre temps. On peut détecter de la fusion des gamètes, si tu es masculin ou féminin. C'est absolument indissociable de ton être, de ton existence. Tu n'es pas créé neutre et puis tu deviens homme ou femme. Tu l'es dès le début. Voilà. Que tes parents aient voulu que tu sois fille, tu es garçon, ça n'a aucune importance. Dieu a voulu que tu sois garçon et tu l'es. Voilà. Moi, ça a été ma guérison aussi, 6-7 ans. Je me souviens, un jour, j'ai vu pour la première fois une jeune femme enceinte, au 9e mois. Bon, la panique, maman, la dame va éclater, vite, ambulance et tout ça, etc. Et alors maman me dit, mais écoute, non, mais elle n'est pas malade, mais figure-toi, il y a quelqu'un dedans. Ah, attends, comment il y a quelqu'un dedans? Oui, il y a un petit enfant dedans. Ah bon, mais oui, et puis toi, tu as été aussi dedans moi. Moi, dedans toi, oui, mais tu étais plus petit, évidemment. Tu étais dans moi, voilà. Moi, dans toi, voilà. Et alors, je me souviens, j'ai crié, maman, je veux un enfant dedans moi, tout de suite, un enfant dedans moi. Et j'ai fait ma crise d'antimasculinité, parce que pendant 3 ans, j'étais jaloux de toutes les filles. Toi, tu pourras porter un enfant devant toi, et pas moi, c'est injuste. Pourquoi toi, pourquoi pas moi? Pourquoi tes filles? Voilà, moi, je veux être fille, etc., voilà. Voilà, ça c'est typique de cette époque-là, un peu androgyne, etc. Voilà. Eh bien non, c'est dès la fusion des chromosomes et tout le développement embryonnaire est différent pour le garçon et la fille, les nouveaux-nés réagissent différemment, le rythme de croissance est différent, la vue, lui, l'odorat fonctionne différemment, même la mémoire, le cerveau fonctionne différemment, les connexions physiologiques sont différentes, c'est la grande différence, la grande expérience du professeur Ruben Gour de l'université de Pennsylvanie, où il a fait la carte des connectivités cérébrales et qui montre des différences frappantes et complémentaires, je cite, dans l'architecture du cerveau humain, comme une base neuronale potentielle expliquant les futures différences hommes-femmes. C'est impressionnant, c'est des découvertes toutes récentes, vous voyez. Sans parler des organes génitaux, mais ça tout le monde sait, voilà. Tout le rythme des cycles est différent. L'ossature, on peut, grâce au test de Karman, découvrir si un squelette d'il y a 7-8 000 ans est celui d'un homme ou d'une femme. La stature est différente, passe-moi la chair, passe-moi la voix, etc. Mais c'est inscrit physiologiquement au plus intime de nous-mêmes. On vient de découvrir récemment, il y a quelques mois, que le lait maternel a une autre consistance si elle nourrit un garçon ou une fille. Voilà, et etc. On découvre des tas de choses passionnantes, vous voyez, qui est une des grandes réponses à dire pour le gender. Voilà, etc. On continue pendant des pages et des pages. Ah ben voilà ce que je cherchais, voilà. Alors vous voyez, alors l'homme yod, qui veut dire aussi la main l'action, et la femme qui implique aussi l'intériorité, le souffle et l'âme, voilà, le souffle et la main, l'action et l'âme. Et dans le nom de Dieu, vous avez le yod et l'âme, et le yod et l'âme. C'est extraordinaire. Voilà. Et c'est pour cela que la famille, on terminera par là, mais j'anticipe un petit peu, eh bien le modèle originel de la famille, comme dit Jean-Paul II, c'est tout simplement la Trinité. Dans le mystère de la Trinité, de sa vie, le « nous » des époux, c'est le « nous » divin entre Père et le Fils. La communion des personnes découle du mystère du « nous » trinitaire et dans la communion conjugale se rattache à ce mystère. Voilà. La famille qui naît de l'amour de l'homme et de la femme est fondamentalement issue du mystère de Dieu. Il y a une ressemblance entre l'union des personnes divines et celle des enfants de Dieu dans la vérité et l'amour. Voilà, voici quelques tableaux, la splendeur dans la lumière de Dieu. Voilà. Et puis va arriver le séisme originel, où l'harmonie brisée. Il ne faut pas que je parle trop fort. Où l'harmonie brisée entre l'homme et Dieu va impliquer la brisure entre l'homme et la femme. Ça va être la grande fêlure, le commencement de la guerre des sexes. Alors que l'union des sexes est donnée pour éviter la guerre des sexes. Et c'est ce qu'on voit très bien aujourd'hui, quand on cherche à briser l'union homme-femme, on est en pleine guerre des sexes aujourd'hui, d'une violence extraordinaire. Voilà. Et, ah oui, je voulais dire que Jean-Paul II a fait une révolution plus que copernicienne, tous les deux étant originaires de Cracovie, quand il a osé dire « Les organes génitaux différents de l'homme et de la femme réfèrent l'être humain non pas à l'animal, mais à la Trinité. » Et c'est un mot d'une puissance, je dirais atomique, extraordinaire. Un pape qui vous dit ça et qui a consacré les quatre premières années de ses catéchèses uniquement à ce thème de la sexualité, de l'amour et de la vie pendant 4 ans, n'est-ce pas? 1800 pages là-dessus, voilà. Il a venu creuser cet admirable mystère. Alors, le séisme, ben, ça va être le commencement de la guerre. La domination de l'homme sur la femme, l'homme macho, tout ça. La honte de la nudité, parce qu'il n'y a plus la transparence du regard dans l'amour. Et voilà, et c'est le commencement de tout ce qu'on voit aujourd'hui. Tout ça s'actualise aujourd'hui. Le péché originel, ça se réfracte dans les milliards de péchés qui se commettent chaque jour. Le péché originel, c'est en ce moment, ça se passe tout le temps, tout le temps. C'est pas un vieux truc du passé, je peux le prouver maintenant. Je mets en colère sur quelqu'un, ça marque du péché originel, etc. Voilà, donc, il n'y a qu'à ce... Et voilà pourquoi Jésus vient justement rétablir l'harmonie originelle. Il vient tuer, car Jésus est un tueur, il est un assassin. Ça n'a pas l'air de vous choquer beaucoup. J'ai aucun effet, je ne fais aucun effet. Jésus est un assassin. Saint Paul, Éphésiens chapitre 2, il a tué. Jésus a tué, texto, a tué. Mais qu'est-ce qu'il a tué? La haine, dans son corps. La haine, c'est-à-dire tous les péchés. Et quand vous regardez aujourd'hui, quelle est l'origine de 80% des souffrances dans le monde? Il n'y a pas d'autre raison que le péché. Tous ces péchés d'égoïsme, de rejet, d'impureté, de jalousie, de haine, d'orgueil, etc. Vous mettez tout ça ensemble, c'est ça qui cause 80% des souffrances dans le monde. Et Jésus vient tuer l'origine de toutes ces souffrances à leur racine. Il seul qui peut tuer en moi le péché et d'égoïste, orgueilleux, impur, me rendre généreux, donné, livré aux autres. Voyez, c'est pour ça que l'évangélisation, c'est la première promotion de l'humanité, c'est cette destruction du mal. Alors Jésus, il va commencer, entre autres, par rétablir la femme dans sa dignité. Alors là, je n'ai pas le temps d'expliquer, il serait trop long, mais c'est extraordinaire de voir comment dans l'Évangile, Jésus a réhabilité la femme. Je prends juste cet épisode bouleversant de la femme dite adultère. Dans une société où, comme aujourd'hui, dans les pays islamiques purs et durs, régime dictatorial islamique, ou comme dans les régions encore païennes, le garçon n'est jamais sanctionné, puni. Toujours la fille, uniquement la fille, uniquement la fille. C'est toujours la coupable, exclusivement la coupable. Les hommes, ils s'en sortent comme ça. Ah, l'honneur de l'homme, on n'y touche pas. Et Jésus fait cette révolution copernicienne, il renvoie les hommes à leur péché. Et vous, celui qui est sans péché, c'est extraordinaire. Et il aime cette femme. Et en même temps, il a cette lucidité, cette parfaite justesse. C'est vrai, tu as péché. Voilà, ne pêche plus. Mais tu es l'enfant de Dieu, je t'aime, etc. Voilà. Et les hommes s'en vont tout honteux. C'est admirable. Et c'est lui qui va être lynché à coups de pierre. Juste après, on va lui lancer des pierres. Et trois jours après, avec la lapidation, il va être flagellé. Il prend la place de la femme. Il se fait flageller parce qu'il veut sauver la femme. Voilà. Et l'Église va se battre tout au long de son histoire pour le respect de la femme, dans l'égalité totale à l'homme, entre autres, pour le mariage. C'est le christianisme qui nous a apporté la liberté de la fille, de la femme, libre d'épouser le garçon qu'elle aime. Et il faut dire ça autour de vous, vous les jeunes, si aujourd'hui dans notre civilisation qui vient du christianisme, tu es libre d'épouser le garçon que tu aimes, c'est grâce à l'Église de Jésus. Et la preuve, c'est qu'aujourd'hui, dans une immense partie de l'humanité, tous les pays auxquels je fais allusion, où chaque vendredi soir on lapide en public et les femmes surprises en adultère, eh bien dans tous ces pays, la femme n'a pas le droit, la fille n'a pas le droit d'épouser le garçon qu'elle aime, elle doit épouser le garçon que les parents, surtout le père de famille, lui imposent, même si c'est un vieux mec que je n'aime pas. Et dans un pays que je ne mentionnerai pas, on a enseveli une fille de 15 ans, ses propres parents, parce qu'elle refusait. Crime d'honneur, ils n'ont pas été condamnés. Les parents ont tué leur fille de 15 ans parce qu'elle voulait être libre. Vous comprenez? Alors on est même heureux d'être chrétien, non? On est même heureux d'une civilisation qui vient en grande partie du Seigneur Jésus. Voilà. Et l'Église a compris que puisque Dieu lui-même s'était humblement soumis à l'accord, au consentement d'une femme, eh bien il fallait respecter le consentement de toutes les femmes, de chaque femme, qu'elle est totalement libre, comme Dieu a respecté la liberté de Marie. Et il a fallu que Joseph consente à son tour au consentement de Marie, que Joseph dise oui au oui de Marie. Voilà. Et donc c'est pour ça que c'est grâce à l'Église que dans le rituel du mariage, eh bien la question est posée à chacun et des conjoints, es-tu vraiment libre? Est-ce qu'il n'y a eu aucune pression, etc., etc. Voilà, c'est admirable. Je n'ai pas le temps de développer tout ça. Alors maintenant qu'on a rapidement vu toute cette beauté, cette splendeur que Jésus a voulu restaurer, voir toutes les attaques qui vont essayer de ravager le chef-d'œuvre de Dieu. Parce que Satan ne supporte pas tout ce qui touche à la vie. Chaque petit embryon, ça lui rappelle trop un certain embryon dans le sein d'une certaine jeune fille à Nazareth, donc ça lui est intolérable. Comme il n'a pas réussi à le tuer in sino, juste après sa naissance, grâce à Joseph qui l'a exilé en Égypte, comme il n'a rien pu faire pour inoculer de la division entre Marie et Joseph, alors il se venge sur nos familles d'aujourd'hui. Voilà. Il ne peut rien contre la Trinité, il ne peut rien contre la famille de Nazareth, alors il y va pour détruire chaque famille qui lui rappelle la famille de Nazareth. Voilà. Et comme il ne supporte pas tout ce qui touche à l'amour, il va essayer, pour tuer la vie, de d'abord détruire l'amour qui est à la source de la vie. C'est toujours l'amour qui donne la vie en Dieu. En Dieu, on ne peut pas séparer amour et vie. Et depuis 2000 ans, corps. Dieu donnant sa vie par excès d'amour à travers le corps de son Fils. C'est la définition de l'incarnation de l'Eucharistie. Et c'est la définition de la sexualité. Un amour donnant la vie par le corps. Trois mots. Et aujourd'hui, Satan va essayer de casser cette conjonction qu'on ne peut pas, c'est pas inséparable, en essayant de casser la connexion amour-vie, amour sans vie, on va se mettre à fabriquer la vie en éprouvette, etc., toutes les PMA, etc., en dehors de tout amour, d'ailleurs, on va voir ça dans quelques instants, et puis de casser la connexion avec le corps. Voilà, on fabrique la vie en dehors du corps, etc., l'enfant est marchandisé, etc., etc. Voilà, c'est Satan. Dès qu'on casse la connexion amour-vie, il y a une nouvelle connexion qui se fait, car la nature horreur du vide, c'est la connexion Eros-Thanatos, l'amour et la mort. Je me souviens, il y avait une affiche il y a quelques années dans des petits villages au fin fond de la France, tellement typique, on voyait une jeune fille toute nue, cachant ses organes intimes, si je puis dire, par quoi, pas par un slip, pensez donc, par une tête de mort, un squelette, pour inoculer l'idée sexe égale mort. Voilà. Alors là, je ne vais pas aborder ça. Maintenant, ça touche au sexe physique. Si on a le temps, on l'abordera à la fin. Mais je vais aborder tout de suite ici cette question du gender, justement, qui est une œuvre de mort, effectivement. Alors, ces gender studies, depuis 30-40 ans, surtout depuis le Congrès international de la femme à Pékin, c'est devenu une véritable idéologie totalitaire imposée au monde entier par les organes de l'ONU. Ça débarque en France assez récemment, mais moi, dans mes conférences aux jeunes depuis 33 ans, dans le monde entier, il y a déjà 30 ans, j'abordais le gender, parce que je savais que ça allait être imposé dictatorialement absolument partout. Il suffit de lire tous les documents de l'ONU, je n'ai pas le temps de vous lire ici, ou de l'Union européenne. Vous avez sur tout cet aspect dictature internationale du gender, vous avez le très bon livre d'une spécialiste qui s'appelle Peters, une femme extraordinaire qui s'appelle Le gender, une norme totalitaire. Voilà. Et vous avez tous les documents de l'ONU. C'est absolument effrayant. Et ce point, ça pénètre partout. C'est imposé maintenant au gouvernement africain. C'est le pire des colonialismes, c'est-à-dire que voilà, le ministère de la Famille doit s'appeler maintenant le ministère du gender, on va être obligé d'enseigner le gender jusque dans les écoles en Afrique, etc., etc. C'est imposé sous peine de couper les fonds, de couper les vivres. C'est effroyable, c'est un massacre de l'humanité dans ces pays-là. Voilà. Et donc, pour ceux qui connaissent pas trop, c'est tout simplement ce débranchement complet entre l'anatomie et la physiologie et le psychologique. Voilà. Donc cette histoire d'homme-femme, c'est purement culturel, c'est social. C'est inventé spécialement, c'est une lubie, une illusion. Maintenant, on dit un fantasme. Voilà. On va jusqu'à dire que l'attraction physique entre un homme et une femme, entre un garçon et une fille, figurez-vous que c'est du fantasme. C'est des mots que je cite de tous ces documents. C'est de l'illusion, c'est du fantasme, et c'est, il y a encore un autre mot très employé, dans le même sens. Ce qui veut dire que nous sommes tous nés d'un fantasme, nous sommes tous nés d'une illusion. Et tout ça, c'est l'imagination, voilà, c'est imaginatif. C'est l'imagination des judéo-chrétiens, à cause de la Bible, à cause de la Genèse, qui ont imaginé qu'il y avait une différence entre l'homme et la femme. Voilà. Et alors que toute la création repose sur ces deux pôles de gravitation de l'humanité, puisque toute la vie est donnée grâce à cette altérité, la fécondité absolument liée à l'altérité, ça veut dire qu'après avoir cassé tous les repères, toutes les valeurs, bien sûr, il n'y a plus de bien ni de mal, tout ça c'est complètement périmé, c'est des vieilles idées chrétiennes, etc. Il n'y a plus de différence entre vérité et erreur, tout ça, ça n'existe plus. Il ne restait plus que deux pôles, un homme est un homme, est une femme. Et second, c'est qu'ensemble, ils donnent la vie à un enfant. Voilà. Et bien, tac, tac, il ne reste plus rien. Plus rien, c'est le chaos originel. Voilà. Et on va construire toute une société sur les sables mouvants des tendances, des désirs, des envies passagères. Un véritable marécage. On nous annonce déjà, il y a 5 genders officiels, comme vous savez, mais tous en annoncent beaucoup, beaucoup d'autres. C'est sans limite, puisque chacun suit ses pulsions, fait tout ce qu'il veut, avec qui il veut, comme il veut, n'importe où, n'importe quand, etc. Et vous avez maintenant, c'est effroyable, pas le temps de développer ça, une énorme publicité faite, par exemple, pour la pédophilie. En Hollande, c'est déjà officiel, il y a un parti politique officiellement reconnu qui demande la légalisation de la pédophilie. On peut déjà mettre des affiches partout prônant la pédophilie. Les parents qui ont fait un procès ont perdu le procès. Dans la Chambre fédérale de Suisse, à Berne, on a discuté de la légalisation de l'inceste. Voilà, ça va bientôt venir. Aux États-Unis, des mouvements politiques très très puissants luttent pour la légalisation de la pédophilie. Et ça va venir très vite, ça fait partie du plan et des différents genders. En Allemagne, on a discuté de la zoophilie, un gender de plus. Et on vous dit que tous ces genders, vous pouvez changer quand vous voulez. Voilà. Donc, tu peux être bisexuel pendant quelques mois, et puis tu deviens trans, et puis tu deviens homo, puis tu deviens hétéro. C'est encore légèrement admis qu'on puisse être hétérosexuel. Oui, oui, on n'est pas contre, mais enfin, c'est pas l'avenir, etc. Des stupidités, mais à tomber à la renverse. On a perdu la tête. On a perdu la tête. Et quand les Africains, dans leur bon sens africain, me disent « Mais vous, en Europe, vous avez perdu la tête », eh bien, je dis oui. Mais quand on marche sur la tête, ça ne dure pas très longtemps parce qu'on perd vite l'équilibre. Donc, tout ça, ça va s'écrouler très vite. Voilà. Et ça arrive à des choses tellement ridicules. Vous savez que maintenant, je ne sais pas par quel bout commencer. On ne va même plus savoir comment appeler quelqu'un. Je ne peux pas dire madame parce que je ne sais pas son gender. Est-ce que tu es femme ou homme? Je ne sais pas. Et donc, je vais commencer par dire quel est votre gender? Vous allez répondre bi. Alors bonjour bi, etc. Parce qu'effectivement, on est en train de détriper, sortir de la signification de tous les mots. Du langage, c'était déjà Platon qui disait que la perversion de la cité commence par la fraude des mots. Et c'est une des grandes opérations en train d'être faite à tous les niveaux internationaux, de vider le sens des mots. Le sens de mot famille, on ne sait plus du tout ce que ça veut dire maintenant. Il y a eu un avis du Conseil de l'Europe, là, il y a quelques semaines, du Comité des droits de l'homme de l'Europe, qui disait que deux personnes homosexuelles qui ne vivent pas ensemble, deux amis qui se rencontrent de temps en temps, ils n'ont pas d'enfants fabriqués ou adoptés, eh bien, ils auront le droit au mot de famille. Voilà. Alors, j'ai un ami homo à Bruxelles, moi je suis ici, voilà, et je revendique le titre de famille, c'est une famille, voilà, ce sera considéré comme famille. Pour dire que tout ça, ce n'est pas des traits exagérés. Dans mon prochain livre, vous aurez tous les documents, tous les textes, textos. Tout ce que je vous dis là, ça a été contrôlé, vous voyez. Les mots père, mère ont perdu toute leur signification, on va le voir dans un sens. Les mots frère, sœur aussi, on ne saura même plus comment parler, tout simplement. Et quand on discute avec des fans du gender, il ne faut pas avoir peur de les prendre par le ridicule, par un peu d'humour, vous voyez. Et ça arrive à des aberrations maintenant, vous avez des enfants. Alors, on ne déclare plus leur sexe à la naissance parce qu'ils devront choisir librement leur sexe à l'âge de 5, 6, 7 ans. Donc, on les habille tantôt en garçon, tantôt en fille, enfin des trucs neutres, on leur donne un prénom neutre et les parents refusent de déclarer le sexe de leur enfant. Voilà. Et d'ailleurs, ça va faire la joie des criminels. La joie des criminels, on va voir un petit peu ça dans un instant. Voilà, quand on va parler, et des enfants. Et pour les enfants, je vais venir dans un... Oui, parlons tout de suite des enfants. C'est que les enfants, dès la maternelle maintenant, il faut tout asexuer, désexuer. Il ne faut plus qu'il y ait des jouets spécifiques filles-garçons. Je vois déjà à Toulouse, tous les trucs doivent être neutres, c'est juste des cubes, etc. Il ne faut surtout pas de poupées parce que c'est soi-disant trop féminin, etc. Il ne faut surtout pas de train électrique, c'est trop masculin, etc., etc. Vous savez ça, maintenant, beaucoup d'écoles maternelles, primaires, etc. Au Danemark, maintenant, les garçons, dans certaines écoles, n'ont plus le droit de faire pipi debout parce que c'est une discrimination par rapport aux filles qui ont un peu plus de difficultés de ce côté-là. Voilà. Ça tombe à un degré de bêtise, mais incroyable. Vous ne faites pas imaginer. Vous lirez dans mon prochain livre, parce que ce soir, il faudrait des heures et des heures pour en parler. Le mot maternel va être supprimé aussi parce que c'est trop féminin, même si 80% des personnes qui travaillent sont des femmes, etc. Alors vous savez que le gender, on est déjà très en retard parce qu'aux États-Unis on en revient beaucoup. La Norvège a déjà arrêté complètement ses cours de gender à l'école parce qu'ils ont remarqué qu'après 20 ans de matraquage du gender, figurez-vous que les femmes, finalement, à 18 ans, elles choisissent plutôt des métiers comme infirmières, comme aides-soignantes, etc. Et les hommes vont plus être portés vers la mécanique, l'ingénierie, l'armée, etc. Alors ils disent, on a complètement raté, pendant 20 ans on a dit qu'il n'y avait aucune différence, etc. Et on est forcé de remarquer qu'on n'y est jamais arrivé, donc ils ont renoncé. Donc déjà la France est déjà en retard sur tous ces pays-là. D'ailleurs, toute la thèse se détruit elle-même par elle-même, parce que si on dit que le féminin et le masculin, c'est purement social, ça veut dire que ça change suivant les sociétés, suivant la mode, suivant les époques. Donc tu ne peux même plus définir qu'est-ce que c'est qu'être féminin. Vous allez me dire, reste le corps. Mais non, ils disent que l'anatomie n'a rien à voir avec la physiologie. Et on va dire aux petits-enfants maintenant, tu es fille, femelle, mais tu peux être masculine. On entend ça, c'est écrit noir sur blanc dans les manuels, Hachette, etc. Tu peux être garçon mâle, mais féminin, pas de problème, tu choisis ton sexe, voilà. C'est comme ça qu'on montre en ce moment dans les écoles ce terrible film Tomboy, mais c'est une aberration. D'ailleurs, un Tomboy, il est interdit aux mineurs en Grande-Bretagne, il est imposé en France aux 160 000 enfants en primaire cette année. Je n'ai pas le temps de décrire ce film, mais c'est effrayant. Où le but, c'est tu ne dois pas pouvoir savoir quel est le sexe de tes camarades, et de toute façon, c'est ton désir qui rend son sexe. Si tu veux qu'il soit un garçon, il est un garçon. S'il préfère qu'il soit une fille, c'est une fille, etc. L'accès, l'humanisation complète par un film pour enfants, et en misant sur le fait que l'enfant va s'identifier au personnage principal du film. Cette petite garçon ou fille, on ne sait pas finalement lequel il est, etc. C'est effroyable, c'est imposé à nos enfants, mais c'est à hurler de rage. Je veux dire, c'est une gravité extrême. Construisons déjà 1000 hôpitaux psychiatriques en France pour quand ils auront 10, 12, 13 ans. On est en train de les casser complètement, vous voyez. Je ne peux pas assainir la gravité de la chose quand on voit tous les textes qui sont là, et les images. C'est aberrant. En plus, il y a maintenant la transsexualisation pratiquée de manière extrêmement massive aux États-Unis, en Angleterre, au Canada, ça commence en France, les Kids Transgender Clinics. Alors, c'est des cliniques pour enfants de 6 à 7 ans pour changer anatomiquement leur corps. Alors, tu vois un petit garçon, bon, qui joue un peu à la fille, un peu féminine, il aime bien mettre des petites robes, etc. Alors tu lui dis, oh, tu n'aimerais pas être une fille? Ah oui, papa, je vais être une fille. Génial, hein, ben, pas de problème, allez, on part à la clinique. Et ça guère, coup d'hormones, etc., des petits trucs chirurgicaux, pour au moins les apparences. Et voilà, tu es une fille, on fait grandir comme fille. Et il y en a déjà des dizaines de milliers aux États-Unis. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est que, à l'âge de 14 ans, la moitié ont déjà fait des tentatives de suicide ou des suicides réussi, si je veux dire ce mot. Alors ça, on ne dit surtout pas. On nous dit, vous avez des quantités de films montrés aux enfants, montrés dans nos écoles ici en France, où on voit ces petits enfants transsexualisés, super heureux, etc., etc. Mais je voudrais les voir dans quelques années. D'abord, c'est toujours devant leurs parents qui disent qu'ils sont super heureux. C'est effrayant. Et alors, après, il y a le drame de ceux qu'on a changés anatomiquement, et puis qui veulent revenir à leur premier sexe, donc nouvelle opération, ou qui regrettent. On arrive à des drames effroyables. J'ai tous les documents américains ici. Et donc, c'est une transgression du respect même de la différence sexuelle, voilà, qui est pourtant inscrite, comme j'ai dit tout à l'heure, dans notre code ADN. Voilà. Alors maintenant, même dans les écoles, tu as un prof qui arrive, après les vacances, il était monsieur le professeur au mois de juin, tu le retrouves en septembre, c'est madame, c'est mademoiselle. Voilà. Alors, ça n'a aucun sens parce que, puisque le genre évolue tout le temps, que c'est purement social, tu ne peux même pas définir ce qu'est un homme ou une femme. Et ceux qui se font transgender cliniquement, ça n'a pas de bon sens non plus, parce que vous voyez que les transsexuels, les adultes, pas les enfants, les transsexuels adultes, eh bien, l'homme qui se fait changer en femme, il va prendre un accoutrement extrêmement féminin, il va se prendre des poses, des attitudes et des vêtements hyper féminins. Juste au moment où en même temps on dit, il n'y a aucune différence, tout ça c'est kiff-kiff. D'ailleurs pourquoi se faire transgender anatomiquement, puisqu'il n'y a aucune différence et puis que la psychologie n'a rien à voir avec l'anatomie. Tout ça ne tient pas debout quand on discute avec ces gens, un peu sérieusement, comme ça, en leur donnant des arguments, ils ne savent plus quoi répondre. C'est de l'ordre de la folie humaine. On a perdu la tête. Voyez. Et pourtant c'est inoculé à nos enfants. Et c'est ça, dramatique, dramatique. Je pourrais donner tant d'exemples de ces choses-là. Je vais en venir à, justement, dans les écoles. Ah oui, alors là, il faut aborder ça maintenant. Puisque j'en suis au gender dans les écoles. Parce que c'est ça, pour moi, le pire. Le pire, c'est que ça, c'est pornographique, le gender. Attends, je vais être transsexualisé. Voilà, parce que vous savez que c'est imposé en France dans 10 académies scolaires à titre de test cette année. Pour être étendu dans toute la France en septembre prochain, à la rentrée. Et déjà, ça déborde, puisque dans le Loire-Atlantique, à Nantes, il y a eu un arrêté interministériel de 4 ministères différents, y compris l'agriculture, on ne sait pas, non, pour imposer le gender dans toutes les écoles, depuis la maternelle jusqu'au lycée en Loire-Atlantique, qui est déjà hors des 10. Donc déjà, c'est en train de déborder. Oui, de déborder. On va voir les réactions tout à l'heure, voilà. Mais je vais venir à une autre question, on va revenir sur autre chose dans les écoles, ça c'était pour le gender. Pour résumer le gender, je dirais que c'est tout simplement une aberration par rapport au simple bon sens humain, au bon sens humain. Et c'est un refus, une rébellion, c'est la rébellion satanique des origines contre le réel. On refuse le réel. On croit qu'on peut refaire le monde à force de slogans, de décrets, de lois. Voilà, je décrète quand la vie humaine doit commencer, quand elle doit terminer, je décrète ce que c'est un enfant, si c'est un garçon, si c'est une fille, etc. C'est moi qui décide. Voilà, c'est vraiment la rébellion, la révolte originelle contre la nature en tant que donnée, contre le créateur en tant que créateur. Non pas Jésus comme sauveur, mais en tant que créateur. Voilà. Et derrière le gender, il y a évidemment la promotion énorme de ce drame actuel extrêmement diffuser de plus en plus de l'homosexualité. Alors là, on ne peut en parler qu'en tremblant. J'hésite même à l'aborder parce qu'on ne peut pas l'aborder en quelques mots. C'est beaucoup trop long. Mais juste dire, j'ai écrit tout un livre là-dessus que vous pourrez lire. Ton corps fait pour un même corps, point d'interrogation, qui m'a valu des milliers de remerciements de personnes touchées par l'homosexualité, qui en a aidé beaucoup, beaucoup d'ailleurs à sortir de ce blocage psycho-affectif de l'enfance. Il faut absolument faire la différence entre les lobbies gays agressifs qui veulent imposer l'homosexualité à tous les enfants, et d'ailleurs c'est typique que les associations qui ont droit d'entrer dans toutes nos écoles, presque toutes, en tout cas en Suisse, il n'y en a qu'une seule qui peut, c'est justement celle du LGBT, qui vont imposer comme une équivalence totale l'homosexualité. Et même pousser aux États-Unis, c'est déjà très fait, aux enfants à faire des expériences homosexuelles pour que tu puisses librement choisir, tu dois faire des expériences sexuelles dès 2, 3, 4 ans, etc. Ça touche à la pornographie dans les écoles, je vais y revenir dans un instant. Vous voyez, on dit fais des expériences physiques et après tu peux choisir ce qui te donne le plus de jouissance, etc. Alors, faire cette différence entre ces lobbies terriblement agressifs dans le monde entier, une puissance financée incroyablement, et puis tant et tant de personnes homosexuelles, hommes surtout, mais femmes aussi, et qui souffrent intimement, justement, comme une blessure de ce déséquilibre intérieur profond. Et la preuve, c'est le nombre qui aidait, soutenu, aimé dans des centres pour cela, ou même qui viennent vivre dans une famille équilibrée, où la relation homme-femme est vraiment une relation harmonieuse. Tant de jeunes qui n'ont jamais connu de père, les chiffres sont effroyable. En ce moment, en France, ce sont des millions de jeunes, j'aurai tous les chiffres, toutes les statistiques dans mon bouquin, et qui grandissent sans jamais connaître de père, qui n'ont jamais vu, jamais aperçu l'admirable complémentarité homme-femme chez leurs parents, qui n'ont jamais eu de parents, qui ont eu un père qui a dénaturer l'image de la paternité, de la masculinité, ou une mère qui a dénaturé celle de la féminité, etc., etc. Toutes les causes, on les connaît, tous les psys l'ont montré. Et aussi la preuve, c'est le nombre de personnes homosexuelles tellement courageuses qui se sont opposées ces derniers temps au mariage dit pour tous, dont je vais parler dans quelques instants, avec un courage extraordinaire, tous ces Xavier Bongibaud, Philippe Arrigneau, Jean-Pierre Delomiard, etc., et tant d'autres qui ont dit « mais nous sommes absolument contre les thèses du LGBT, nous ne reconnaissons pas du tout là-dedans, ils n'ont pas le droit de se présenter comme la voix des personnes homosexuelles ». Et c'est l'immense majorité des personnes homosexuelles qui se sont senties agressées justement par toute cette loi Taubira et tout ce que ça va entraîner. Et on peut rendre hommage à ces personnes homosexuelles qui prennent des risques énormes, qui reçoivent des menaces de mort, et peut-être certains seront martyrs de leur courage, parce qu'ils disent, mais justement, nous avons cette blessure de l'homosexualité, nous avons tellement souffert dans notre enfance de ne pas connaître une vraie famille, nous voulons à tout prix sauver la famille. D'ailleurs, chacun de nous, homosexuels, nous venons d'un homme et d'une femme, il n'y a rien à faire. Il n'y a pas de vulve dans les testicules, il n'y a rien à faire. Et ils ont le courage de le dire, vous voyez. Alors j'en connais un grand nombre, ces personnes qu'il faut beaucoup aider, beaucoup aimer, et qui arrivent qui est quelquefois une vraie reconstruction de leur être, à vivre une véritable restauration de leur être. Surtout en vivant justement dans des familles ou des communautés ou des écoles d'évangélisation, j'ai vu ça à Jeunesse Lumière, où en quelques mois, ce problème disparaît parce qu'ils découvrent émerveillés la complémentarité mutuelle des garçons et des filles. Voilà, donc des dépassements, des maturations, des restaurations. Alors, cette question du mariage homosexuel, c'est quelque chose d'effroyable. d'effroyable, vu tout ce que ça va entraîner et que c'est déjà en train d'entraîner. D'abord, il y a des paradoxes. C'est les mêmes personnes qui revendiquaient le droit à la différence, d'être différents, qui veulent maintenant être assimilés, se marier comme tout le monde, famille lambda, voilà. Les mêmes qui disaient que le mariage était complètement périmé, défusé, déphasé, rétro, etc., qui maintenant le revendiquent. Quelques-uns, petit nombre, voilà. Les mêmes qui revendiquent la parité, le quota homme-femme en politique, en économie, etc., et on refuse la parité, la même où elle est essentielle pour la vie d'un enfant. Pas de parité pour le mariage, vous voyez, homme-femme. C'était tellement plein de contradictions. Le moment où on revendique l'écologie, le respect de la nature, etc., eh bien là, on arrive à cette espèce de bricolage artificiel. Voilà. Alors, on va dire, mais c'est la discrimination. Mais il y a discrimination que quand il y a égalité entre l'homme et la femme, il y a cette différence. Mais le pire dans cette affaire de mariage, c'est la question de l'adoption des enfants. Et là, c'est la pire des discriminations pour un homme. Ces enfants qui vont se trouver dans leurs écoles, certains ont une maman, d'autres n'ont pas de maman, ou ils ont deux mamans, ils ont deux papas, certains n'ont pas de papa. Voilà. Et donc, on fabrique d'avance des semi-orphelins. Comme ça n'avait pas déjà assez d'orphelins qui souffrent tellement de n'avoir pas leur famille originelle. Ils ne vont même pas avoir le droit de se retrouver avec un papa et une maman qui justement les ont abandonnés. Et ça, c'est effroyable pour un enfant. En plus, quand on sait la précarité et des duos homosexuels. Quand on écoute les personnes qui sont plongées dans l'homosexualité, depuis 40 ans, j'ai lu des témoignages, un homme qui m'a dit, je n'ai connu sur des centaines et des centaines d'amis et de partenaires, je n'ai connu que 5 personnes qui ont tenu ensemble plus de 3 ans. Que vont devenir ces enfants adoptés? Ensuite, c'est pénaliser tous les parents qui attendent depuis des années de pouvoir adopter un enfant. Des enfants, des parents qui sont une question de stérilité, parce qu'en France, il n'y en a pas assez. Et en plus, on va donner la priorité, bien sûr, aux parents homosexuels. Déjà, en Angleterre, c'est la dictature. On fait fermer toutes les agences catholiques d'adoption qui refusent de confier un enfant à des duos homo. Ils doivent fermer, c'est obligatoire. Tous les pays africains, asiatiques, Russie, etc., ont décidé de fermer leur circuit d'adoption s'il y a un moindre risque qu'ils aboutissent dans un couple homo, c'est simplement un bon sens humain. Et donc tous ces bons parents, qui sont par milliers, ils sont 30 000 en France, qui ont fait une demande d'adoption, ils ne vont pas pouvoir adopter un enfant à cause de cette question de mariage homosexuel. Je ne sais pas si on réalise. Qui souffre? Qui écope de tout ça? Ce sont les plus faibles, les plus vénérables, les plus vulnérables, les plus petits de nos frères de chair et de sang. Les enfants ont été les grands absents dans toutes ces discussions. On n'en parlait jamais. On revendique le droit à l'enfant. On ne pense même pas au respect des besoins d'un enfant. Et ça, c'est effroyable. C'est une fabrication. Alors, si on passe au PMA, parce que c'est en train de prendre une proportion énorme dans le monde, que vous ne soupçonnez pas. En France, ce n'est pas encore légalisé, ça va l'être très vite, ainsi que la GPA. Ne vous faites aucune illusion, on nous ment en disant qu'on remet, etc. Car dans les autres pays, c'est devenu une véritable fabrique de semi-orphelins. Voilà, alors maintenant tu vends ton sperme par net, vous pouvez vendre votre sperme, il y a des banques en Danemark entre autres, voilà, des tas d'étudiants gagnent leur vie comme ça, tu gagnes 35 euros en donnant ton sperme le matin et 65 euros si tu donnes tes coordonnées, voilà, pour que éventuellement l'enfant puisse te retrouver plus tard. Voilà. Et puis les ovocytes sont loués, achetés aussi, suivant la race, suivant le QI de la personne. Donc un sperme d'un grand ingénieur va coûter plus cher que le sperme d'un pauvre agriculteur, etc. Tout ça, c'est déjà tarifié parce que tu dois donner ton physique, etc. Alors, je veux qu'il y ait des yeux bleus, etc., etc. Je veux que j'ai un garçon, une fille, etc. Tout ça, c'est trié. Et puis, avec la GPA, vous savez qu'en ce moment, il y a déjà des usines à enfants en Afrique, aux Indes, au Népal, voilà, avec des centaines de femmes caddies, comme ça, dont on loue le ventre. La vente des ventres, voilà. Et maintenant, c'est déjà des milliers d'enfants aux États-Unis. Voilà, leur père, c'est des paillettes venues de Suède, leur maman, c'est des ovocytes achetés au Japon, et leur mère porteuse, c'est une pauvre femme qui a gagné un peu sa vie en vendant son ventre à Bombay. Et ça se fait massivement, déjà massivement. Ça va venir en France très, 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 très vite. Déjà en France, d'ailleurs, les agences qui font de la pub pour ça, vous pouvez les trouver à Paris, vous pouvez donner des adresses, qu'à voir sur le net, etc. Et vous voyez à quelles aberrations épouvantables on en arrive. Alors quand on parle de mariage homosexuel, je dis, mais pourquoi pas, mais il faut être ouvert, tolérant. Mais quand vous voyez tout ce que ça implique, jusqu'où ça va arriver, mais c'est effroyable, que vont être ces enfants dans quelques années. Et je ne vous dis pas les imbroglios juridiques, déjà là, les juristes, les gens de la justice sont complètement dépassés. Vous avez des procès incroyables en ce moment, parce que la femme qui a porté ce petit... D'abord, elle a l'interdiction de l'aimer. Donc déjà, l'enfant grandit dans un ventre où il n'a pas été conçu, parce qu'il a été inséminé, évidemment. On insémine l'embryon. Par exemple, aux États-Unis, on va prendre des mères porteuses noires, parce qu'elles se vendent plus facilement pour avoir de l'argent, parce qu'elles sont plus pauvres, c'est le nouvel esclavage, la nouvelle prostitution. Mais je ne veux pas que mon enfant soit noir. Donc, je veux aider des ovocytes d'une blanche avec mon sperme, etc., que je vais faire mettre dans le ventre. Voilà. Et alors après, la femme n'a pas le droit d'aimer cet enfant, donc l'enfant grandit sans aucun amour. À la naissance, il est arraché de sa maman, qui l'a porté, et il se retrouve avec une tierce personne qui te transporte à New York, et il se trouve entre deux hommes, et il doit dire « Maman, un vieux monsieur barbu ». Et puis voilà. Et on ose dire « Mais pour l'enfant, ça n'a aucune importance, mais ça va aller très bien, mais où est le problème? Il s'adapte, l'enfant s'adapte à tout, etc. etc. » Vous voyez, c'est effarant, effarant ce qu'on... Et tout ça, je le répète, ça se passe en ce moment où je vous parle massivement, par milliers, par dizaines de milliers. Voilà, tous les témoignages sont là. C'est effrayant, vous avez des procès, parce que quelquefois la mère porteuse veut garder l'enfant, parce qu'elle s'est mise à l'aimer. Elle refuse de donner. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il a déjà été acheté. Est-ce qu'elle doit rembourser? Est-ce qu'elle doit acheter à la femme acheteuse pour garder? Ou le contraire, l'enfant est né, il ne plaît pas à la mère qui a acheté. Et non, non, je n'aime pas son nez, je n'aime pas son visage, la femme n'a qu'à le garder. Alors, à qui appartient l'enfant? Est-ce que c'est celle qui l'a commandé? Est-ce que c'est celle qui a donné ses ovocytes, peut-être? Parce que celle qui a donné ses ovocytes peut réclamer aussi. Et on arrive à des trucs incroyables, avec maintenant la fécondation in vitro, mais surtout post-mortem, etc. Alors vous avez des histoires en Angleterre, où vous avez la grand-mère, pour ne pas que sa petite-fille porte un enfant, parce que c'est trop embêtant, eh bien la grand-mère porte l'enfant de sa petite-fille, etc., etc. Et... Alors, j'ai des pages entières, des pages des différents procès qui ont lieu en ce moment. Mais des trucs abracadabrants. Ou bien pour l'avortement, si on découvre que l'enfant porte un handicap. Mais que la mère porteuse veut tout de même le garder. Ou bien au contraire, c'est la mère acheteuse qui veut tout de même le garder. La porteuse ne veut pas, etc. Procès. Voilà, des trucs... incroyable, mais je vous passe tout ça. Alors quand on déclare, Madame Bertinotti, ministre déléguée à la famille, l'accouchement ne fait pas la mère, donc la gestation ne fait pas la mère. Alors, on ne sait plus ce que c'est qu'une mère, on ne sait plus ce que c'est qu'une maman, on ne peut plus parler de mot maman, on ne sait plus ce que ça veut dire. c'est la mère porteuse, c'est la mère acheteuse, c'est la mère, c'est la mère qui a vendu ses ovocytes, etc. Et on fait que l'enfant viole sa mère. Parce que mettre un enfant dans le sein d'une femme, c'est une espèce de viol pour elle. Voyez. Et donc ces pauvres femmes sont réduites à être des fabricantes de bébés, des simpouveuses, des incubateurs à enfants. Voilà. Et il y en a des milliers en ce moment. Voyez les drames. Voyez où on est arrivé à cette révolution, cette révolte contre la création même de Dieu. Des enfants conçus dans le but d'être abandonnés et qui n'auront jamais soit de père, soit de mère. Jamais. C'est effrayant. On le sait d'avance. À croire que ces gens n'ont jamais vu un orphelin pleurer dans leurs bras. On en fabrique volontairement. Et c'est à hurler. Mais c'est à... Je ne comprends pas comment des peuples entiers ne se lèvent pas par millions dans les rues quand on arrive à des choses comme ça. Mais non, tout part. Je demande du Dieu pourquoi pas, etc. Donc on va engendrer des psychopathologies sociales épouvantables parce qu'un enfant qui n'a pas été aimé, ni dans le sein de sa mère, qui a acheté, vendu, etc., etc. Comment voulez-vous qu'il ne s'exprime pas par la violence? Nous créons des sociétés d'une violence inouïe, des enfants qui n'ont jamais été aimés. Aux États-Unis, on a prouvé, noir sur blanc, 95% des jeunes délinquants sont des enfants qui n'ont pas de famille. Sans famille. Et les 95% des plus performants dans la société, c'est ceux qui ont grandi dans une famille unie, etc., avec les pères-mères. Tout ça s'est prouvé, tout ça s'est dit. Mais on s'en fiche. Tous les psys ont prouvé depuis surtout 50 ans tout ce que vit l'enfant in situ par rapport à sa maman. On le sait. Eh bien, toutes ces études des psys, aux orties, ils sont tous fous. Tous fous, ceux qui ont prouvé tout cela. Tous ceux qui ont prouvé, justement, que combien un enfant ne peut pas grandir, puisqu'il vient d'une père et d'une mère, sans cette relation à l'homme et la femme. Toutes ces études psy, paf, on les envoie prendre. Du jour au lendemain, pratiquement, en 2-3 ans, tout ça, Mars, Vénus, tout ça, c'est fini, c'est périmé, périmé. On déclare que c'est périmé, on passe des décrets, des lois, peu importe ce qu'en pensent les gens. Vous voyez, c'est la pire des dictatures idéologiques qu'on puisse imaginer. Alors le problème, c'est la filiation dans ce trafic procréatif, ce baby business, comme on dit maintenant, ou la cuisine procréative, comme dit Sylvia Nagaczynski. Eh bien, c'est le problème de la filiation truquée, désincarnée. Tu n'as plus de filiation, tu n'as plus de grands-parents, d'arrière-grands-parents, tu ne sais même pas qui ils sont, tu n'as plus accès à ton hérédité, à ton atavisme, tu ne peux rien en savoir. Et vous savez, le drame de tous ceux, de tous les orphelins, comment ils cherchent par tous les moyens à retrouver leur origine, parce qu'on a besoin de s'inscrire dans la chaîne des générations pour me connaître moi-même. Je dois connaître mon hérédité, mon atavisme, qui sont mes parents, mes grands-parents, et là vous ne connaissez personne, personne, parce que tu vis avec deux hommes, dont tu ne viens pas, qui ne t'ont jamais donné la vie. Et alors on va mentir à ces enfants. On va leur faire croire que ce sont deux hommes qui vont donner la vie. Alors quand ils vont apprendre à l'école que finalement, il faut ovule et testicules, etc., ils ne vont plus rien y comprendre. En attendant, on les aura complètement bousillés. Imaginez le traumatisme d'un enfant. Ah ben, j'ai vu le papa qui m'ont donné la vie. Bon, la fille découvre, ben, je ne sais pas si c'est que ça. Le papa, ça ne donne pas la vie, etc. Et donc on détruit, on viole le bon sens d'un enfant, on brise sa conscience humaine d'une façon effroyable. Et c'est pas encore fini, parce que vous allez maintenant avoir des mariages à 4, 5, 6, ça se fait déjà en Angleterre. Voilà, alors vous allez marier un couple d'hommes-hommes, un autre couple femme-femme. Voilà, donc ils sont 4, mariage à 4. Et du coup, on va fabriquer et des enfants comme ça, vous comprenez? Et voilà, ou bien alors, pour que la maman, on va faire passer l'enfant au milieu de la gestation d'une femme à l'autre. Comme ça, et les deux femmes auront été porteuses pendant 4 mois et puis pendant 5 mois, voilà, etc. Tout ça, ça se fait déjà, c'est effroyable. Voilà. Alors, il y a toute une association de la procréation médicalement anonyme, justement, qui lutte pour qu'on ne soit plus coupé de cette généalogie, vous voyez. Mais il n'y a plus de généalogie possible, plus possible, plus possible. Tu ne pourras jamais retrouver de... qui a vendu son sperme pour que tu existes, vous voyez. Et jamais un papa ne fera une maman, jamais un homme ne fera une maman, et jamais une maman ne fera un papa. Quand on connaît avec toutes les études psychologiques comment les deux exercent leur parentalité de manière complètement différente mais complémentaire, tu ne vas pas me dire qu'il n'y a aucune différence, que c'est interchangeable, etc. Voilà. Il y a encore un autre aspect, je voudrais venir, sur l'État kidnappe nos enfants pour les pervertir. L'éducation sexuelle provoquant notre colère. Ce n'est pas seulement le gender qui est imposé aux enfants maintenant, mais dans les cours d'éducation sexuelle qui sont confiés la plupart du temps et dans plusieurs pays maintenant aux lobbies qui font la promotion, quelquefois très violente, de l'homosexualité. Et moi qui ai reçu tant de confidences de personnes homosexuelles depuis 30, 40 ans, je peux vous dire que initier un enfant à l'homosexualité, c'est criminel. C'est le frustrer d'avance du bonheur de l'altérité. C'est le frustrer d'avance du bonheur de la fécondité. C'est dire à un enfant, tu ne pourras jamais engendrer. Tu ne pourras jamais avoir un enfant de ta chair. C'est ça. Et on les initie à cela. Et une fois initié, c'est très difficile de s'en sortir. Je dis, c'est criminel, c'est du massacre d'enfants, vous voyez. Et, alors, si, je ne sais pas si vous avez déjà lu International Sexual Education Guidelines en Europe, le Federal Center for Health Education, vous voyez, pour l'Union européenne, vous avez toutes les normes données pour l'éducation sexuelle. Donc, ça commence en France, dès le primaire, on va déjà initier à toutes les déviances sexuelles possibles et imaginables, dès l'âge de 2-3 ans. Vous avez toutes ces images aussi qui circulent dans les écoles, qui initient les enfants à l'inceste. Vous avez vu ça déjà, dans tout sa poil, etc. On dit, les petits frères, petites sœurs, va coucher dans le lit de ton petit frère, tripote-le sur tout son corps et tripotez-vous, voilà, couchez dans le lit des uns d'autres. Voilà, initiation à l'inceste, donné à des enfants de 2-3 ans, alors que la loi condamne l'inceste. On va initier nos enfants et personne ne dit rien, ou presque. C'est une abomination. On est plus à la masturbation enfantine des 3-4 ans. Et donc toutes les infos, soi-disant les infos ou les descriptifs, sont en fait des incitations, des provocations. Et c'était déjà le cas dans le cadre de la lutte anti-sida. Il y a déjà 20 ans, je vous lis un décret de 4 ministères, justice, santé, intérieur et défense. On se demande ce que la défense fait là, mais enfin. L'incitation à des comportements sûrs à l'égard du risque de contamination du sida peut passer pour une évocation directe des pratiques sexuelles et il doit être clair que la mise à disposition ou la distribution de matériel de prévention ne saurait être assimilé à des messages à caractère pornographique ou contraire à la décence réprimée par le code pénal. Ça veut dire que le numéro 227,5-7 du code pénal qui interdit la pornographie pour enfants est annulé par 4 ministères en disant qu'on peut montrer du matériel pornographique si c'est dans le but d'éviter le sida. En fait, c'est exactement le contraire, parce que c'est des initiations au comportement même qui l'ont véhiculé. Vous voyez, l'aberration. Et c'est pour ça que l'Académie nationale de médecine déjà réagissait. Combien plus aujourd'hui? C'est ainsi qu'ont été éditées, sous couvert de prévention, des brochures, des plaquettes, offrant aux jeunes et les centres d'animation culturelle sportive et des foyers sociaux, l'occasion de découvrir avec photos suggestives, donc pornographiques, une image de toutes les déviations sexuelles, y compris l'inceste. Il y a déjà 20 ans, l'Académie nationale des médecines sonnait l'alarme. Personne n'en a tenu compte. Ces dérives sont dangereuses. Les pouvoirs publics, en annulant par la circulaire, etc., le code pénal en matière de pornographie pour mineurs on crée une situation d'impunité. C'est-à-dire les pornocrates ont libre entrée dans toutes les écoles. Les écoles, lycées, collèges vont être protégés contre l'intrusion du dévoiement sexuel. Voilà, le plus grand médecin de France. Personne n'en tient compte. J'ai édité ça il y a 20 ans. Et combien plus aujourd'hui, maintenant que c'est vraiment légalisé. Et je trouve que des associations, même l'Église catholique, pourraient très très bien faire un procès juridique au ministère de l'Éducation nationale pour viol du code pénal français et pour viol de toutes les chartes protégeant l'enfant. Commencer par la charte de l'ONU des droits de l'homme, la charte de l'ONU pour la convention internationale de l'ONU pour l'enfant, la convention de La Haye, etc., etc. Nous sommes dans notre droit juridique pour réagir. Mais personne ne réagit massivement. Le ministère de l'Éducation nationale est passible de sanctions pour viol et des chartes internationales que la France a signées. Vous voyez, par rapport à la protection de l'enfant. Il y a des quantités de textes. Quand on voit tout ce qu'on donne à nos enfants, les familles arc-en-ciel, papa porte une robe, Rémi est amoureux d'Hubert, Tango a deux papas, etc., Jean a deux mamans, etc., quatre poules et un coq, etc. Voilà, et on pervertit l'intelligence de l'enfant. On torture sa raison. Voilà. Et l'enfant n'appartient pas à l'État. Notre actuel ministre délégué à la famille a osé déclarer « Les enfants n'appartiennent pas à leurs parents ». Elle a dit ça mot à mot. Ça veut dire qu'ils appartiennent à l'État. Hitler avait dit exactement la même chose et Lénine exactement la même chose. C'était tout le système soviétique et nazi, c'était d'arracher les enfants à leur famille pour leur inoculer l'idéologie nazie ou marxiste. Voilà, et vous aviez aussi, ça rejoint la GPA, sous le régime nazi, toute la fabrication d'enfants, les fameux Lebensborn, vous vous rappelez, parce qu'il manquait de jeunes à l'armée, donc il fallait fabriquer à toute vitesse et des centaines de milliers de nouveaux Ariens. Voilà, et donc les Ariens devaient coucher tous ensemble, mais les enfants étaient arrachés dès le sein maternel, comme pour la GPA, pour être éduqués dans les centres d'éducation nazis ou marxistes. On recommence la même chose chez nous. Voilà, parce qu'on veut les éduquer dans le gender dès qu'ils sont enfants, dès la maternelle, vous voyez. Et là, c'est un viol du droit parental. Voilà. Et les mots employés par ce ministre Peignon, qui vous les arracher aux stéréotypes familiaux, pas seulement sexuels, mais aux stéréotypes familiaux. Voilà, c'est arraché à leur foi avec cette nouvelle religion, mais là, j'ai pas le temps de développer, vous voyez. Voilà. Il y a une phrase de Charles de Foucault qui m'a impressionné. Il dit « Malheur à vous, hypocrites, qui mettez partout liberté, égalité, fraternité, et qui permettez de voler des enfants à leurs parents. C'est une immoralité honteuse. » Il fait allusion à l'esclavage. Voilà. Mais on y est en plein dedans. Et sous le régime soviétique, je me souviens en Lituanie, j'en ai encore connu, il y a 2000 mamans qui ont osé écrire à Moscou en disant, parce qu'on arrachait leurs enfants à leur famille pour les mettre dans des soi-disant orphelinats, mais leurs parents existaient pour les idéologiser dès leur petite enfance. Non, le mot de maman ne peut être tué dans un cœur d'un enfant. Il n'y a pas de cafouillage athée qui puisse consoler leur chagrin. Qui est capable de sonder le désespoir d'une âme d'enfant arrachée à la main maternelle? Nous, maman, dont l'amour pour nos enfants est infini, nous ne pouvons pas vous les confier parce que vous allez les détruire. Ce sont nos enfants, pas les vôtres. Nous les défendrons de toutes nos forces. Nous en avons les droits d'une mère. Même les animaux défendent leurs petits au prix de leur vie. Voilà. Et bien, c'est ce que des mamans françaises devraient écrire au gouvernement. Au gouvernement. Vous nous arrachez nos enfants. C'est effroyable. Et vous comprenez, la dichotomie pour un enfant. Il entend ses parents dire « Ah, t'es une super fille, t'es la plus belle fille du monde, etc. 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 » Puis alors, il arrive à l'école, t'es femelle, mais tu veux être masculin, tu veux pas être homme, tu veux pas changer de sexe, etc. Voilà. Et à l'école, il apprend tout le contraire de ce que lui disent ses parents, vous voyez. Voilà. Alors heureusement, il y a des réactions. Dieu merci, ça commence à réagir, ça commence à bouger de tous côtés. Alors vous avez beaucoup de réactions du côté des évangéliques qui ont publié une lettre très très forte justement au gouvernement sur toute cette question du gender et des cours d'éducation sexuelle. Vous avez des réactions très fortes des musulmans, comme vous savez, avec cette très courageuse Farida, qui se téléphone de temps en temps. C'est une femme que j'admire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et parce qu'elle n'a pas été soutenue, elle n'a pas été vraiment soutenue par les catholiques, par d'autres, elle est tentée de faire appel à des gens qui vont la desservir un petit peu, mais qui se proposent de l'aider, ça a eu récemment, etc. Et en même temps, je trouve que les musulmans, ils disent, ben voilà, nous ne pouvons plus donner nos enfants pour être ainsi dénaturés par l'école de la République, donc nous allons construire nos propres écoles sans contrat, probablement financées par les pétrodollars, que vous savez. Mais le grand danger de ça, c'est que ces écoles typiquement musulmanes risquent d'être très vite intégrisées, d'être très vite, par les intégristes musulmans, vous comprenez, si toute l'éducation est uniquement musulmane. Donc le gouvernement français joue un rôle terrible, parce que qu'est-ce qui provoque l'intégrisme islamique, quelque chose d'épouvantable, c'est notre propre intégrisme, vous comprenez, c'est notre propre violence, mais rien n'est plus violent qu'insinuer le gender à des enfants, rien n'est plus violent que d'arracher un enfant au sein de sa maman, rien n'est plus violent que d'obliger un enfant à dire papa à une jeune fille ou maman, monsieur barbu, rien n'est plus violent que tout ce que j'ai dit. Et le drame, c'est que l'islam fait la confusion, enfin pas les musulmans en France, encore que, font la confusion entre l'Occident et le christianisme. Et ils pensent que toutes ces horreurs, des suicides assistés, des euthanasies, etc., de l'avortement massif, tout le gender et tout ça, le mariage homosexuel, ils pensent que tout ça, c'est le christianisme. Parce que pour eux, ils ne peuvent faire aucune idée que le gouvernement ne fasse pas corps avec le peuple et avec une religion. Donc tout ça, c'est chrétien. C'est pour ça que c'était tellement important qu'il y ait tant de musulmans qui aient participé, encore pas assez, à nos grandes manifs pour tous, ou des musulmans veilleurs. Parce que c'était la première fois que les bons musulmans ouverts ont pu voir que les chrétiens aussi, les cathos aussi, sont horrifiés comme eux. Vous comprenez, et que les cathos ne sont pas d'accord, ils sont aussi contre le gouvernement comme eux. Et c'est une urgence pour casser ce terrible amalgame occident-christianisme qu'il faut faire le maximum de ce qu'on peut faire avec les musulmans. Quand Farida a lancé cette opération un peu violente, mais non violente en même temps, donc de journée sans école, comme vous savez, elle a beaucoup d'intelligence. Rappeler une consigne dans les écoles, que l'enfant peut manquer une journée d'école pour une grande fête de famille. Bon, donc elle dit que les enfants disent « bon, nous avons une grande fête de famille, telle date ». Voilà. Puis le tour est joué, donc il manque l'école. Et le gouvernement a paniqué, parce qu'effectivement, ça a très bien réussi. La dernière, c'était 44% des enfants en primaire qui ne sont pas allés à l'école. Et qu'est-ce qui a fait reculer un peu le gouvernement à certains moments? Quand le président et le premier ministre ont déclaré que cette fameuse loi sur la famille serait reportée à plus tard, c'est un mensonge, parce que déjà en ce moment, avec le statut du beau-parent, on y revient et ça va continuer, donc c'est un pur mensonge. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ce petit truc un peu le recul? Pour ne pas perdre les voix musulmanes aux élections, mais ils les ont tout de même perdues, tous ces musulmans qui votaient traditionnellement à gauche, ils n'ont plus voulu à cause de ces questions-là. Donc le gouvernement s'est complètement trompé, il a voulu sauver ses voix musulmanes, ils les ont perdues, vous voyez. Et je ne sais pas, mais moi j'aurais dit, une situation, moi j'aurais dit, ben, tous les cathos ont fait la même chose, on fait le boycott, puisqu'il n'y a aucun dialogue possible, puisqu'on n'écoute pas, puisqu'on a beau mettre des millions de gens dans les rues et on n'écoute pas et ça ne change rien à rien, il a fallu qu'une petite musulmane. À la dernière manif pour tous, on aurait été 3 millions, le gouvernement n'en aurait tenu aucun compte. Mais une petite musulmane, elle fait trembler le gouvernement. Génial, moi je trouve ça génial. Je m'excuse, tout le monde n'est peut-être pas d'accord avec moi, mais voilà. Et voyez, le collectif des musulmans se manifeste. Il paraît impensable que nos enfants évoluent dans les écoles de la République. Ces dernières outrepassent leurs fonctions. Elles perturbent l'équilibre psychique futur de nos bambins. La solution réside dans la création d'écoles privées indépendantes de ces schémas indécents et pervers. Aux musulmans de se donner les moyens d'agir pour sauver les générations futures. Mais qu'il ne soit pas dit que les enfants musulmans et les enfants protestants évangéliques soient mieux protégés par leur hiérarchie que les catholiques. Voilà. Alors, nous avons ces réactions magnifiques de tout un peuple qui se lève, qui se soulève, qui refuse d'être anesthésié, d'être chloroformé, d'être saoulé, d'être bâillonné. Et c'est ces grandes manifs pour tous qui ne sont que le début et qui ont une immense influence dans tout le reste de l'Europe. Vous savez que tous les pays d'Europe de l'Est, avec lesquels j'ai beaucoup de liens, comme vous savez, quand ils ont vu la manière dont les Français courageux se sont levés dans une révolte non violente, ça leur a rappelé tout ce qu'ils ont vécu il y a 20 ans sous le communisme. Ce que j'ai vu à Paris en mars, mai, juin l'année dernière, j'avais tout vu à Varsovie 20 ans plus tôt. Et les jeunes dans les rues, priant autour de grandes croix, et coffré par la police en pleine nuit. J'ai revécu à Paris ce que j'ai vécu à Varsovie il y a 20 ans. Eh bien, l'espoir de tous ces peuples, c'est qu'en voyant nos grandes manifs pour tous, les veilleurs, les merveilleuses, etc., eh bien, se sont dit, préparons-nous à faire la même chose. En Italie, ça commence déjà massivement. Il y a eu des lettres épiscopales de tous les épiscopats, de Pologne, de Slovénie, de Suisse, d'Italie, d'Autriche déjà, 5 épiscopats lus dans toutes les paroisses contre le gender et surtout le gender et l'éducation sexuelle dans les écoles. Les épiscopats très 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 courageux, voilà. Et là nous sommes avec les évangéliques, les protestants un petit peu moins, mais tout de même avec les orthodoxes. En ce moment c'est un grand point d'union entre orthodoxes et catholiques parce que les orthodoxes sont aussi épouvantés que nous. Donc on se trouve ensemble dans le même combat, dans la même bataille. Nous avons eu l'exemple formidable, il ne faut pas les oublier, des mères pour l'enfance. Et ça, je m'excuse, mais je voudrais que beaucoup de nos évêques aient le courage de beaucoup de nos mères qui ont osé dire qu'ils étaient prêts à aller à prison plutôt que de... Voilà, il y a 19 000 mères dont on ne donne aucun compte. Parce que le grand problème aujourd'hui, c'est l'objection de conscience qui est refusée, cette objection de conscience qui est un moyen de lutter extraordinaire, non violent, auquel nos papes n'ont cessé de nous appeler. Quand Jean-Paul II disait « Toutes les influences, tous les efforts pour imposer le silence n'arrivent pas à faire taire la voix de la conscience qui retentit en tout homme. Ce monde a tant de moyens pour affaiblir et obscurcir la conscience. » Mais il faut protéger jalousement cette conscience pour ne pas permettre que la vie et la mort perdent leur valeur. Voilà. Et nous connaissons tant de ces jeunes tellement courageux qui font objection de conscience comme infirmiers, infirmières, médecins qui perdent leur job, etc. mais qui restent fidèles à la vérité. Je connais plusieurs infirmières de 18, de 25, 26 ans qui ont perdu leur travail puisqu'ils ont refusé de participer à des manipulations génétiques, immorales, etc. avec le truc... Et puis la réaction des jeunes tellement belle, cette immense vague de jeunes pour la chasteté dans tous les pays du monde. Moi, j'ai assisté dans des stades au Brésil, des stades aux États-Unis, au Canada, des milliers de jeunes descendant les radins, venant devant l'autel, si c'était des cathos, et qui venaient confier leur sexualité, peut-être perturbée, leur affectivité, peut-être déjà douloureuse, au Seigneur, pour être capable n'avons pas de relation sexuelle avant le mariage, pour sauver la beauté du mariage. Vous savez qu'au Burundi, il y a tout un groupe de 4000 jeunes qui ont le nom de Jeunesse Lumière, à Bujumbura, dans la capitale, qui font chaque année, deux fois par an, dans leur paroisse, devant leurs parents, leurs amis, 4 engagements, j'en retiens 3 cette fois-ci. Primo, ne jamais tricher à l'école. Secundo, ne jamais céder aux pressions des profs, parfois des médecins et surtout des employeurs pour des rapports sexuels, pour qu'ils aient du travail ou réussissent leur examen. Je connais des jeunes à Bujumbura qui ne pourront jamais continuer leurs études, qui ont raté tous leurs examens parce qu'ils ont refusé de coucher avec le professeur. Ça, c'est les grands héros d'aujourd'hui. J'en connais qui sont au chômage parce qu'ils ont refusé de coucher avec l'employeur pour avoir du travail. Ils ont été éjectés de leur travail parce qu'ils ont refusé. Ce n'est pas les Michael Jackson, les grands héros de notre temps. Ce sont ces jeunes Africains, dignes de ces jeunes de Bouta. Ces 40 jeunes qui, à 5 heures du matin dans leur dortoir, ont refusé d'être séparés par ethnie, alors qu'on leur donnait l'ordre de se séparer en précisant qu'on ne tuerait que la moitié d'entre eux. Pas un n'a accepté d'être séparé de ses frères. Ils se sont tous donné la main. Ils ont chanté notre père. Ils ont dit, vous ne nous séparez jamais les uns des autres. La moitié savait qu'ils auraient eu la vie sombre. Ils ont préféré l'amour. Ça, c'est les grands héros de notre temps. Quel âge ils avaient? 16, 15, 17, 18 ans. Au Rwanda, des jeunes ont fait la même chose. À 12 ans, si vous ne croyez plus à la force de l'Esprit Saint, alors je ne vous comprends pas. Et c'est là où on touche du doigt la puissance de l'Esprit Saint, la fragilité. Et c'est des jeunes, c'est des enfants en qui ce miracle de puissance, etc. Je vois tous ces jeunes qui font ces promesses d'avoir pas de relation sexuelle avant le mariage. Maintenant, je rencontre tant de jeunes mariés qui me présentent leurs enfants, qui me disent « Merci de m'avoir fait faire cette promesse il y a 20, 30 ans. Grâce à toi, je n'ai pas accepté toutes ces... j'ai pas échappé toutes ces saloperies de sida, etc. etc. » Et qui découvrent que la chasteté, c'est la stratosphère qui protège l'amour, comme la stratosphère protège notre planète du soleil, qui ne détruit pas, mais qui donne la vie, qui découvre l'écologie des corps. Vous savez qu'il y a beaucoup de martyrs de la virginité aujourd'hui, des garçons et des filles qui sont tués parce qu'ils refusent un rapport sexuel, qui sont tués pour cela. Vous les verrez dans mon dernier petit livre. J'ai commencé une série, Les prophètes de la joie. Vous verrez Myriam Ashkar au Liban, notre petite Anne Lorraine de France, etc., etc. Les martyrs de la virginité aujourd'hui. Mais qu'elles sont belles, qu'elles sont grandes, quelle immense espérance. Vous avez Miss America, deux fois de suite, Miss America et Miss Monde, une petite Roumaine élue à Séoul l'année dernière. Et toutes ces Miss, eh bien, qui déclarent... Qui déclare, je vous préviens que je suis vierge et je veux rester vierge jusqu'à mon mariage. Donc vous les garçons, attention. Miss Monde, c'est pas rien. Miss Monde, c'est mieux que le pape dans ces cas-là. Ça a plus d'influence qu'une déclaration du pape sur la chasteté, vous comprenez. Et quand ma chère Herald aux États-Unis, même chose, j'étais violée à 12 ans, je ne veux plus jamais que ça recommence dans mon école, et elle passe dans 1000 écoles aux États-Unis, lycées, universités, faisant la promotion de la chasteté juvénile, etc. Ça, c'est magnifique, il y a toute une génération qui se lève, c'est pas seulement les manifs pour tous, mais c'est une immense lame de fond blanche contre ce raz-de-marée noir. Je pourrais en parler pendant des heures, j'ai tous les documents, j'ai tous les faits, je connais et les personnes, etc. Il y a une somme de courage dans le monde aujourd'hui, admirable, voyez, il ne faut pas désespérer, et c'est nous qui avons la victoire. Nous sommes déjà les grands vainqueurs, tout simplement parce que, eh bien, sauf ces histoires de PMA, etc., pour couple homo, c'est nous qui assurons la survie de l'humanité, que je sache. Ce sont nos enfants, non? Et nos enfants, ils viennent d'un papa et d'une maman, non? Donc d'un homme et d'une femme, voilà. Et maintenant, je suis obligé, dans les rassemblements de jeunes, je ne le fais pas ce soir, je suis à Madrid, à Rio, durant les JMJ, je dois terminer mes enseignements en disant, et vous les garçons, dites-moi, est-ce que vous êtes fiers et heureux d'être garçons? Voulez-vous grandir dans votre race masculine? Alors vous entendez, oui, etc. Et puis les filles, etc. Je vais leur demander ça maintenant. Et je vais terminer, c'est la conclusion. On pourrait parler encore des heures, sur juste quelques citations pour nous donner courage. Je veux que ce soit ce qu'on demande à Jean-Paul II et à Saint-Joseph ce soir, le don du courage. Cardinal Bergoglio, un chrétien doit savoir ce qu'il peut accepter et ce qu'il doit condamner. On ne peut pas dialoguer avec l'ennemi de notre salut, il faut lui faire face en le combattant jusque dans ses intentions. Et vous savez que pour le gender, le 12 avril, il a piqué une colère improvisée, déjà la veille, en recevant les membres du Bureau international de l'enfance à Genève, quand il a dit, cette phrase tellement forte, il a fait allusion aux idéologies du nazisme et du communisme en disant « les idéologies n'ont pas perdu leur actualité, elles continuent de détruire de lapider la conscience, de lapider les nations, de lapider la liberté ». Trois fois le mot « lapider » sur la pensée unique qui lapide. Et il a précisé « je me pose de toutes les forces aux manipulations éducatives qui... je ne sais pas le mot de l'amour, c'était il y a quelques jours. Voilà. Mon refus de tout type d'expérimentation éducative avec les enfants. On ne peut rien expérimenter avec les jeunes et les enfants. Ce ne sont pas des cobayes de laboratoire. Pape François, vive Pape François. On se demande... Bravo. On se demande parfois si on envoie nos enfants à l'école ou dans un camp de rééducation. Pape François, que tous nos évêques de France entendent Pape François là-dessus. Voilà, tous. La défense de la vie est un chemin qui est plein de loups, Pape François. Et peut-être nous emmènera-t-on, nous les évêques et les prêtres, devant les tribunaux pour avoir pris soin de la vie. Peut-être vont-ils nous tuer. Ils tuaient les martyrs pour avoir prêché cet évangile de la vie. Mais Jésus nous donnera la force d'être prêts aux martyrs pour sauver nos enfants. On ne peut pas supporter qu'un seul de nos enfants soit perverti, soit débauché. Il vaut mieux donner sa vie pour lui. Une lutte, Frédéric Ozanam, que personne ne puisse par ses fautes personnelles compromettre la cause de l'Église. Et que le ciel nous préserve de deux espèces d'hommes qui font perdre des batailles, les lâches et les traîtres. Encore, cardinal Wyszynski, la nation dépérit quand elle manque de courage, quand elle se ment à elle-même en disant que tout va bien, alors que tout va mal. Malheur à la société dont les citoyens ne sont pas guidés par le courage, ils deviennent de simples esclaves. Si le citoyen renonce au courage, il devient esclave, même si la peur lui fait facilement obtenir du pain. Malheur aux gouvernements qui veulent acheter le citoyen au prix de la crainte servile. Et vous voyez, dans les pays de l'Est, ils tremblent. Ils disent, nous avons subi deux idéologies totalitaires, destructrices d'humanité, nous ne tenons pas à une troisième. Et c'est ces pays de l'Est d'Europe qui vont sauver l'Union européenne. C'est les Pays-Baltes, c'est la Pologne, c'est la Tchéquie, etc. Encore ceci, tellement fort, du cher père Popieluszko, quand il disait « Le témoignage courageux de la vérité est un chemin qui mène directement à la liberté. La vérité qui ne coûte rien est mensonge. La condition essentielle pour vivre en vérité, c'est le courage. C'est une victoire sur la peur. C'est une victoire sur la peur. On ne sert pas la vérité en faisant des programmes de télé. Selon la propagande officielle de la culture laïque, comme s'il n'y avait pas de chrétiens en Pologne. L'État se transforme en apôtre de son Dieu, l'athéisme, le laïcisme, et il demande à la nation de s'incliner devant un Dieu conçu à sa mesure. Mais nous ne sommes pas la nation d'un jour. Nous sommes une nation chargée de transmettre des forces accumulées pendant 1000 années. La vérité est immortelle, le mensonge périt. De mort rapide, voilà. Eh bien, nous devons être prêts aux martyrs s'il le faut. Cardinal Ratzinger, une civilisation possède des valeurs qui justifient l'enjeu de la vie. Quand ces valeurs n'existent plus, le pays n'existe plus. L'homme a besoin de transcendance. Et je voudrais, pour introduire une prière finale, ce mot bouleversant de Benoît XVI sur l'Eucharistie. Où il dit, je l'ai entendu durant la procession de la fête à Rome, il disait, l'homme ne s'agenouille que devant son Seigneur. Et c'est cela qui lui donne d'être debout devant un dictateur. À genoux devant son Seigneur pour être debout, fort, devant un dictateur ou un persécuteur. C'est l'adoration qui nous donne cette force. Amen. Amen. J'aimerais conclure avec un chant à Marie, mais aussi le chant des veilleurs, le chant des résistants, tellement touchant, tellement beau, qu'ils sont beaux nos veilleurs, quelle beauté, c'est tout l'avenir qui est là.
Je profite de ça pour vous rappeler que les veilleurs se réunissent tous les mercredis soirs devant Saint-Louis à Grenoble. Voilà. Et aussi dans toute l'Isère, le Nord-Isère, il y a plein de groupes qui sont actifs. Donc on va chanter l'espérance, puisque même le plus noir nuage a toujours sa frange d'or. Et quelle formidable frange d'or d'être tous ensemble réunis autour du Père Daniel Ange. Merci beaucoup. Vous pouvez chercher sur vos iPhones si vous ne le connaissez pas, mais vous n'avez pas d'excuses. Le front penché sur la terre, j'allais seul et soucieux, quand résonna la voix claire d'un petit oiseau joyeux. Il me dit, reprends courage, l'espérance est un trésor, même le plus noir nuage a toujours sa frange d'or. Même le plus noir nuage a toujours sa frange d'or. Lorsque le soir se fait sombre, j'entends le petit oiseau gazouiller là-haut dans l'ombre, sur la branche au bord de l'eau. Il disait, reprends courage, l'espérance est un trésor. Toujours sa frange d'or, même le plus noir nuage a toujours sa frange d'or. Mais il partit vers le Père et jamais sur la terre et la contempler ravie, car il n'est que l'espérance pour habiter notre cœur qui de nos plus souffrance
c'est toujours être vainqueur. Quitte nos plus noires souffrances, c'est toujours être vainqueur.
Je vous signale qu'il y a deux très beaux livres qui viennent de sortir sur les veilleurs, dont un album illustré uniquement des photos et des textes lus durant les veillées des veilleurs. Une pure splendeur, si vous pouvez les trouver. Je vais vous donner la bénédiction du Seigneur avant un chant final à Marie. Le Seigneur soit avec vous. Seigneur, viens toi-même bénir chacune de nos familles, Seigneur, surtout les petits-enfants. Viens, Seigneur, convertir tous ceux qui font du mal à nos enfants, tous ceux qui veulent détruire la vie, détruire l'amour, détruire la sexualité, détruire nos familles. Seigneur, nous implorons une grâce de conversion le plus rapidement possible pour qu'ils puissent aller au ciel un jour et non pas en enfer quand ils vont rendre compte de tout le mal qu'ils ont fait. Seigneur, nous te demandons ta bénédiction et ta lumière pour tous ceux qui sont chargés de nos gouvernements, tout spécialement dans le cadre de l'éducation nationale, de tout le corps enseignant. Nous te demandons ta bénédiction, Seigneur, sur tous ces enfants qu'on abîme, qu'on prostitue, Seigneur, sur tous les jeunes. Nous te demandons ta bénédiction pour tous ces courageux veilleurs, tous ces courageux jeunes qui veulent la vie, l'amour dans sa beauté. Te confions, Seigneur, tous les parents, tous les grands-parents qui font tout pour transmettre à leurs enfants le meilleur de ce qu'ils ont reçu, Seigneur, et qui en souffrent tellement quelquefois quand cela ne semble pas passer. Te confions, Seigneur, tous les malades de nos familles. Te demandons de venir en guérir, au moins les soulager, Seigneur. Nous te confions tous les pays d'Europe en ces jours tellement importants, Seigneur, pour la paix du monde. Nous te confions, Seigneur Jésus, tous les mourants, les agonisants, tous ceux qui cette nuit vont partir vers toi. Te confions tous les bébés qui vont être conçus ou mis au jour durant cette nuit qui vient. Nous te confions toutes les familles qui souffrent, Seigneur. Te confions toutes les familles séparées, dites recomposées. Seigneur Jésus, viens consoler les enfants de ces familles, tous ces orphelins de parents vivants, Seigneur Jésus. Nous les jetons tous dans le cœur de ta maman Marie. Bénis tout ce diocèse de Grenoble, Seigneur, son évêque, tous ses prêtres, tous ses agents pastoraux, tous ceux qui s'y dévouent sans compter, spécialement au service des jeunes. Bénis, Seigneur, toutes les futures grandes manifs pour tous. Bénis chaque veilleur en cette nuit, où qu'il soit en France ou dans le reste de l'Europe. Viens soutenir leur courage, leur patience, leur amour non violent. Et moi, je vous bénis au nom du Père, votre Créateur, qui nous livre son Fils, notre Sauveur, et répand sur nous son Esprit Saint, notre Consolateur. Amen. Saint Jean-Paul II, pape de la famille. Saint Jean-Paul II, pape des jeunes. Saint Jean-Paul II, champion de la vie. Saint Joseph, protecteur de la vie. Saint Joseph, protecteur du mariage. Saint Joseph, protège nos familles et prie pour nous. Amen. Notre-Dame de la Salette, Notre-Dame de Fatima. Et nous terminons avec un chant à la Vierge. Et c'est la première fois que je chante depuis une semaine, grâce à Jean-Paul II qui m'a rendu la voix après toutes ces journées à Faune. Merci Jean-Paul II. Un chant à Marie que vous connaissez tous, je ne sais pas lequel.
Voilà notre chant. Je vous salue Marie, comblée de grâce.
Je voudrais remercier encore pour cette brillante conférence. Je rappelle qu'il y a sur la petite table là-bas 17 des ouvrages du Père Daniel Ange. Il en a écrit 80, mais on n'avait pas toute la bibliothèque. Et je le remercie d'autant plus qu'il a annulé son week-end à Paris où il avait 15 rendez-vous pour se préserver ce passage à Grenoble. Je le remercie encore une fois.